Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
Moments ago, this ship received word of a Cylon attack against our home worlds is underway. We do not know the size or the disposition or the strength of the enemy forces. But all indications point to a massive assault against colonial defenses. Admiral Nagala has taken personal command of the fleet aboard the Battlestar Atlantean, following complete destruction of PyCon fleet headquarters in the first wave of the attacks. How, why, doesn't really matter now. What does matter is that, as of this moment, we are at war.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 secondes.
Nous sommes le mardi 14 janvier 2013. Bonne année à tous et bienvenue au 8e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast bimensuel des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et des séries que nous aimons. Et si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site internet 24quarks.com, donc 24quarks.com.
Quark.
Et sur iTunes, cette semaine, on attaque notre première série.
Série télé,
ouais, absolument. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Battlestar Galactica, la version réimaginée, comme dit son créateur Ronald D. Moore, de 2003, et inspirée bien sûr des films et séries de 1978, c'est ça. Et je suis Nicolas Petzilas, et avec moi, comme d'habitude, Marie-Louise Garriépi.
Salut Nick.
Et Olivier Sabineau.
Bonjour.
Et parce que c'est la nouvelle année et parce que on veut faire les choses bien, on a un invité spécial cette semaine. Super content.
Spécial.
On a notre premier invité. Non mais je suis super content, on a notre premier invité. Moi je trouve ça super
bien.
Mais
oui, premier invité. Hein.
Cheers to that.
Ouais, et il est le président du Geek Fest Montréal. La grand-messe des geeks du Québec et d'ailleurs, amateur de science-fiction, geek multidisciplinaire.
Multidisciplinaire, voilà.
C'est Jean-Philippe Cardin.
Bonjour.
Bienvenue.
Ben, bienvenue.
Merci d'être là.
C'est un super plaisir que tu sois avec nous.
Ça fait plaisir de prêter mes cordes vocales à votre podcast.
Je pense que tout le monde sait ce que c'est le GeekFest, mais juste pour s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, si tu peux genre nous résumer rapidement en quoi ça consiste.
Le GeekFest veut être un événement pour non seulement... initier certaines personnes à la culture geek, soit au niveau du jeu vidéo, de la science-fiction, de l'informatique, surtout des jeux. Au niveau du costume aussi, c'est un très gros volet, ces temps-ci, au niveau... Moi, personnellement, je suis plus au niveau des conventions. Mais au niveau des conventions, c'est vraiment ce qui est le plus gros aspect. Et ça veut aussi... On veut aussi peut-être essayer de rejoindre justement ces communautés geeks-là. Ils vont les mettre ensemble pour que ça se parle de temps en temps, c'est bien.
C'est le mélange de toute la geekitude. Ouais. Hein? Tu as aussi des programmeurs, tu as des joueurs.
Est-ce
que
vous parlez Klingon, vous autres?
Non.
Il y a des qui peuvent montrer Klingon.
Je peux vous apprendre le Klingon. Okay. Je connais les bases. Je connais les bases. Malheureusement, je ne suis pas encore rendu au point où je suis capable de parler couramment.
Bon, c'est pas le geek le plus hot, là. C'est ça que tu es en train de dire.
C'est décevant.
Non, j'ai pris mes points d'expérience et je les ai mis... un peu partout.
Au moins, ils travaillent en Linux, tu sais.
Oh c'est boy, ça. OK. Là, on parle de vrai.
Moi, c'est le minimum. Klingon, okay. Linux.
Bon, tu viens de reprendre les points que tu avais.
Et puis, le prochain GeekFest, c'est quand, alors?
On essaie de... on organise ça pour le mois d'avril.
Le mois d'avril, c'est ça, ouais.
Le 6 avril, si tout va bien.
OK. Puis ça dure, c'est le temps d'une fin de semaine?
Cette année, on va y aller doucement avec une journée.
Okay.
Parce qu'on est en train de rebâtir.
C'est ça, il y a eu une année d'absence.
Une année d'absence où ce qu'on a rechangé toute l'équipe et malheureusement c'est ça, l'organisation d'événements c'est pas toujours faite pour tout le monde et c'est un bon challenge que je relève avec avec une bonne équipe, mais c'est ça aussi.
Bon, on le sait, il y a tellement de choses à faire.
Donc, c'est ça.
On a hâte de voir ça. Geektest 2013, nous autres, on va suivre ça. On va
le faire. Tu es aussi à Comic-Con, c'est ça?
Oui, je suis sur le staff de Comic-Con, où, comme je disais à Marie tantôt, j'ai le très dur labeur d'être guest liaison pour les invités.
Oh, c'est blatant, hein?
Parce que je dois malheureusement être assis à côté d'une star pendant toute une fin de semaine de temps.
Oh, c'est vraiment blatant. J'ai déjà rencontré une des stars de Battlestar Galactica.
Oui, Jamie Bamber. Je l'ai vu que très courte... En fait, j'ai vu deux stars de Battlestar. Mais une au cours du Comic-Con d'Ottawa. Jamie Bamber... Le peu que j'ai pu voir de lui, il est très sympathique et il parle un très bon français.
Jamie Bamber qui fait Apollo.
Apollo, et voilà.
Dans la version réimaginée.
Et la deuxième personne justement de la série, il y a une question de plugger un peu notre contenu. Nikki Klein qui a joué Callie. La très, très, très jolie Callie.
On développe plus dans la deuxième saison, qu'on parle pas.
Qui est une des, qui fait partie du staff de Chief Tyrell sur le pont, en fait, sur
j'ai eu le plaisir de la rencontrer au cours de Concept 2010, une convention que j'ai co-présidée.
Tu nous as-tu une petite résumé par rapport à Galactica?
Bien sûr que j'ai mon petit résumé.
Ah, on attend juste ça, là.
Bien sûr. Bon, alors, juste pour dire, donc là, on est. Bon, je crois qu'Olivier, t'es le seul à ne pas avoir vu la série en entier.
Effectivement. Ouais, moi, je découvre ça là.
Nous, on a dit à Olivier, on va faire une série télé, mais ça va être Battlestar Galactica. Faut que tu l'écoutes.
Au départ, j'étais comme, ça avait l'air, j'étais pas sûr. Puis je pense que j'ai un beau switch.
Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur la première saison, peut-être un petit peu de la deuxième, enfin, jusqu'à peu près où t'en as vu.
Ouais, parce que vous me stoulez pas de poil aujourd'hui.
On va faillir à l'avertissement qui est.
On parle de la première saison. C'est spoiler la première saison. Ouais,
c'est clair.
Moi, je pense que c'est une saison qui est assez intéressante. On va laisser Olivier là. On pourra peut-être revenir à un moment donné, faire peut-être pas un podcast au complet, mais peut-être un demi-podcast sur notre feeling de toute cette saison-là.
Ça marche. Bon, allez, je fais mon petit résumé. Le commandant Adama se prépare à la cérémonie de désarmement de son vaisseau, le Battlestar Galactica, construit 50 ans plus tôt, au premier jour de la guerre contre les Cylons, ces machines créées par l'homme qui s'était rebellé contre leur créateur. Depuis l'armistice proclamé 40 ans plus tôt, plus personne n'a entendu parler des Cylons. Et c'est à cette occasion que ces derniers en profitent pour rompre le silence et lancer une attaque massive sur les 12 colonies humaines. Protégé des virus informatiques ennemis par son obsolescence, seul le Galactica parvient à résister à l'attaque, et devient ainsi l'unique escorte militaire d'une flotte spatiale hétéroclite regroupant les derniers survivants de l'humanité. Afin de se donner un nouvel espoir, la flotte de réfugiés part alors en quête d'une mythique 13e colonie qui porterait le nom de Terre, tandis que les Cylons se lancent à leur poursuite déterminée à les exterminer. Voilà, c'était un petit mix de Wikipédia, de IMDb, de tout ça. Voilà.
Et de ton toit.
Voilà, avec des petits enchaînements de moi.
Donc... tu y vas à la prose.
Et voilà, donc on va faire un petit tour de table, savoir un peu comment chacun a découvert tout ça. Je vais commencer par Jean-Philippe.
Quand as-tu découvert Battlestar Galactica?
En fait, j'ai découvert la série originale en premier. J'ai vu un article dans un vieux fanzine des années 90 à propos de la série originale. Ensuite, ça passait à Z-Télé, la série originale. Et quand j'ai entendu parler qu'il allait avoir le remake, j'ai vraiment suivi là, au fil...
Ok, t'as écouté l'original avant de voir le remake, c'est ça?
Ouais, c'est ça. J'ai été parmi le peu de gens de nos jours qui ont eu ce plaisir-là. Donc, moi, j'ai la série réimaginée, je l'ai connue vraiment au fil de son développement.
Ah, ok.
Peut-être avec certains rushs, là... Parce que des fois, tu manques une saison, puis là, tu te la tapes au complet, là, mais j'ai vraiment suivi...
Tu la suivais quand ça...
C'est ça, exactement.
Oh, wow. Toi, Marie-Louise?
Moi, c'est de ta faute, encore une fois.
Ça arrive souvent.
Ça arrive quelques fois, ouais. Où est-ce que, genre, un jour, Nick est arrivé avec, comme je pense, 3 DVD, dont un, il y avait Battlestar Galactica, il faut absolument que tu écoutes ça. On était rendu à la saison 3, si je me trompe pas, quand j'ai commencé à écouter la saison 1. Évidemment, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 jours, j'ai pas dormi. Je l'ai vraiment écouté en rafale. J'ai vraiment aimé ça tout de suite. Là. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. Que j'ai écouté la première saison, la deuxième saison, puis j'ai attrapé la saison 3, puis là, c'était la souffrance, là, c'était le martyr, fallait attendre chaque épisode.
Puis encore, c'était pas diffusé chez nous, là, fallait... Enfin, je sais que moi, je piratais ça allègrement. Parce que j'ai pas de DVD.
C'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas.
Tous les DVD,
c'est
là,
parce qu'à l'époque, on n'avait pas de façon légitime par Internet d'avoir la série, ouais. Comme aujourd'hui.
Ouais.
Aujourd'hui, tu peux pas l'avoir légitimement. Faut que tu pirates ou que tu ailles au centre de DVD. Il n'y a pas sur Netflix, c'est pas sur iTunes. J'ai pas
elle
regardé.
Pas sur... Non, c'est vrai, elle est pas,
elle sur, pas iTunes. Sur iTunes.
Elle est pas sur Netflix Canada.
Ouais,
elle est la série, le remake est sur le Netflix américain.
L'original, il y est.
C'est quand même du piratage si quand tu le.
Et c'est quelle série qui est pas disponible?
L'original
est sur Netflix Canada.
Mais la refonte de 2003, tu peux pas l'avoir non plus sur iTunes ni sur Netflix.
Non, mais au club vidéo, vous vous rappelez des bons vieux club vidéo? Hein,
ça... Ce qui nous amène à toi, Olivier. Hein?
Alors, moi, il y a deux semaines, je suis allé au club vidéo par vos bons conseils et votre obligation que je regarde cette série-là. J'étais un petit peu réticent au départ parce que je pense que je m'étais fié peut-être un petit peu justement au poster, au artwork, tout ça.
Okay.
Puis je sentais quelque chose de peut-être un petit peu trop geek pour mes goûts personnels. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que des fois, trop geek, c'est comme pas assez. On veut une espèce de bon juste milieu hein, de tout ça.
Tu connaissais l'original ou absolument pas?
Non, pas absolument pas. J'avais vu que la série existait depuis longtemps, mais ça m'avait pas attiré du tout. Mais là, vous m'aviez dit, c'est bon. Je fais, OK, je me lance. Là, je vois ça. Ça a pris 2-3 épisodes, en fait, à peu près la mini-série, qui est le début de la première saison, avant que j'embarque vraiment. Mais je trouvais quelque chose d'intriguant puis de fascinant tout le long. Surtout la scène d'ouverture du premier épisode de la mini-série, ça, c'est hallucinant. La rencontre qui est supposée se faire à chaque année, mais que là, les salons n'y viennent pas, puis qu'elle rappelle le pouf. Ça, c'est génial. Fait que ça t'accroche, disons, assez bien en partant.
Ouais.
Et puis là, après ça, ben, j'ai embarqué là, comme un fou là, jusqu'à la fin. J'ai continué avec la saison 2, je suis hooked. Donc,
la première épisode est super bon aussi, narrativement, là, comme qui jump tout le temps et tout. Là.
Moi, ça,
le secret d'une bonne série aussi, c'est ton premier épisode, il faut que t'accroches tout de suite les gens, ils l'ont très bien fait.
Tonic.
Ben moi, c'est ça, je connaissais la série originale que... Et oui, je suis le plus vieux à cette table. Je l'ai vu à l'époque.
Ça va, aussi.
Je l'ai vu à l'époque diffusée... elle a été diffusée un peu plus tard que... C'était pas en 78, ça devait être en 81, 82, un truc comme ça. Ça avait été diffusé en Europe, à la télévision. Donc je l'avais connue à ce moment-là, puis étant fan de Star Wars, puis j'adorais tout ce qui se passait dans l'espace, dès qu'il y avait de la bataille spatiale, des trucs et tout. Moi, j'étais fou, là. Donc... c'est ça, j'aimais bien, c'est sûr que
Tu l'aimais l'original?
Ouais, je l'aimais bien.
Non, on l'a pas eu au Québec en passant, je pense pas qu'on l'a eu.
Non, ouais, vous l'avez pas eu?
Je pense pas, je l'aurais vu sinon. Parce que moi, j'écoutais tout ce qui était de l'espace, donc...
Écoute, je l'aimais bien, j'étais peut-être pas autant fan qu'un Star Wars ou un truc comme ça, mais j'aimais ça, il y avait des aspects que j'aimais beaucoup, puis c'est resté avec moi, je m'en suis rappelé longtemps, je veux dire, tout le... Il y a beaucoup de choses visuelles dont je me suis toujours rappelé, tu sais. Et quand j'ai entendu parler du remake, enfin du reboot, puis je doutais un peu, j'ai très peur, c'est du sci-fi en plus.
C'est
sci-fi,
surtout que c'est un remake.
Pas tellement...
ça fait toujours peur à la base.
Sci-fi, on n'était pas tellement habitué à des choses de genre, c'est super qualité, c'est chaînes du câble qui produisent des trucs un peu so-so, tu sais.
Ben attends, il y avait quand même Next Generation qui avait vraiment des super bons épisodes. On a parlé aussi de Babylon 5 et tout, que tu connais pas.
Ouais. Next Gen non plus, j'ai jamais vraiment suivi.
Next Gen, il y avait vraiment des bons épisodes.
Oui. Ouais.
Moi j'ai écouté le top 10 de Next
c'était
Gen.
C'était pas Sci-Fi qui produisait ça, si?
Non.
Ça a été produit.
Ah, mais c'est le fait que c'était produit par Sci-Fi, c'est ça qui t'inquiétait.
La série par Sci-Fi, il y a eu Dune, les mini-séries de Dune qui ont été faites, qui étaient quand même de bonne qualité.
Ouais, ça, j'ai pas vu, il paraît que c'était pas mal. Ouais,
mais comparé au film, quand c'est un film de David Lynch, quand même.
Mais c'est pas le meilleur de David Lynch.
Non,
mais
c'est une commande.
Alan Smith, pas David Lynch.
Ouais, effectivement. Sur le director Scott, il a signé Alan Smith.
On a coupé Nick dans son
salon.
Arrive à Battlestar Galactica.
En fait, un jour, je l'ai vu en fait en allant au club vidéo. Je l'ai vu. Je me suis dit, tiens, je suis curieux. J'ai envie de voir ce truc-là. Puis je vois, c'est une mini-série, machin. Un truc de 3 heures et tout. Je me dis, bon, allez. Ou ça, on verra bien. Je dis à ma blonde, allez, ça te dit ce soir, on se voit ça et tout. Tu sais, c'est un remake d'une série, je lui explique en gros ce que c'est. Ok, d'accord.
On
a commencé ce truc-là, on est resté, mais scotché devant encore. On ne pouvait pas décrocher. On hallucinait, quoi. Attends, c'est de la télé, là, ce que je suis en train de voir. Je ne crois pas que c'est de la télé, ce que je vois. Là. Ça ressemblait. Tu sais, ça comme un. Ça a
visuellement, c'est
un scope là, comme ils disent en anglais, tu sais, ça a
une ampleur.
Une ampleur, ouais. Enfin, il y a quelque chose d'épique, tu sais, là-dedans que j'avais jamais vu à la télé, tu sais, jusque-là.
C'est vrai que je veux dire aujourd'hui les séries, tu avais des très bonnes séries et tout, mais c'était vraiment une série qui était très cinématographique.
Mais il faut dire que ça a commencé comme étant littéralement une mini-série. C'est ce qu'on appelle un backdoor pilot. Puis en fait, on va faire la mini-série. On fait la mini-série, on va voir si ça pogne. Puis ça a pogné. Fait que d'après moi, c'est qu'ils ont eu le gros budget pour faire la mini-série. Fait que vu que tous les décors étaient construits, fait que ça a été facile de faire la... Mais ça, c'est ma théorie, mais
La série a suivi l'année suivante, en 2004.
Oui, c'est ça, en 2004, oui.
Mais c'était clair de la façon dont terminait la mini-série aussi, qu'il y avait comme... T'sais, je veux dire, la mini-série était faite pour faire une série.
C'est comme un très long pilote. C'est ça qui est rare de c'est voir ça.
Ouais.
Mais ça sentait au possible. C'était impossible qu'il n'y ait pas de suite.
Mais en même temps, ça tient tout seul. C'est sûr que à la fin, tu es là. Ah, tu as envie de savoir ce qui va se passer. Mais je veux dire, ça pouvait marcher. Mm. Je veux dire, même si ça n'allait pas plus loin, ça faisait un beau produit en tant que tel.
Ouais.
Ils ont refait ça d'ailleurs par la suite avec Caprica.
Il n'y avait pas de closure. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y avait pas de closure. À la fin de la
mini-série... Non, il y a une fin ouverte, mais je veux dire...
Ben, plus qu'ouverte, là, je veux dire. C'est là que commence l'épisode. Tu me corrigeras, je n'ai pas vu 78. J'ai essayé de le voir beaucoup, OK? Je n'ai pas trouvé nulle part. Demandé à mon compte Bell, là, ça a beaucoup téléchargé.
Je te le filerai, je l'ai.
Mais 78...
J'aurais dû le demander.
La série originale a aussi commencé comme étant un film dash mini-série.
Effectivement, elle a commencé comme ça, mais c'est clair que dans la série 78, c'est pas juste genre la fin du monde. T'sais, la fin du monde, c'est le début. Ouais. L'intérêt de toute la série, c'est cette fin du monde.
D'ailleurs, c'était la promo de la série.
Je sens qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Mm. Peut-être qu'on devrait se mettre un extrait.
OK, on se balance un petit extrait.
Allez, un extrait. My primary objective at the present time is to repair the Galactica and continue to fight. What we do know at this moment is that there are 50,000 civilian refugees out there who don't stand a chance without your ship to protect them. We're aware of the tactical situation, and I'm sure that you'll all be safe here on Ragnar after we leave. After you leave? Where are you going? To find the enemy. We're at war, and that's my mission. I honestly don't know why I have to keep telling you this, but the war is over. It hasn't begun yet. That's insane. You would rather that we run? Yes, absolutely. That is the only sane thing to do here, exactly that, run. We leave this solar system and we don't look back. Can we go where? I don't know. Another star system, another planet, somewhere where the Cylons won't find us. You can run if you'd like. This ship will stand and it will fight. I'm going to be straight with you here. The human race is about to be wiped out. We have 50,000 people left and that's it. Now, if we are even going to survive as a species, then we need to get the hell out of here and we need to start having babies. Hey, il y a tellement de choses à dire sur cette série-là. Ça va être difficile parce que d'habitude, on fait un film. Ouais, le film, c'est 2 heures et tout. Là, t'as tellement de personnages, tellement d'épisodes.
Juste se concentrer sur les thèmes au pire. Là.
Ouais,
les thèmes évoqués.
C'est géant. Moi, je trouve que c'est une série géante. Puis j'aimerais ça juste évoquer 2-3 détails. D'abord, c'est une série qui est beaucoup axée au niveau du drame des personnages, mais d'une façon excellente. Et je veux dire, le côté science-fiction... Tu sais, quand tu regardes des Star Trek et compagnie, il y a un petit côté geek où est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait un personnage... Comme dans Inception, le côté qu'on avait détesté, où est-ce qu'il va expliquer de la science pendant, à n'en plus finir, tu sais.
Ouais.
Là-dedans, c'est vraiment au minimum. Ce qui compte, c'est vraiment une situation. Puis c'est la science-fiction que j'aime, en fait, tu sais. Autant je suis mordue de la science, puis j'aime pas quand on me prend pour une idiote, puis qu'on me sort des affaires qui n'ont pas d'allure. Là-dedans, les choix qu'ils ont faits, même si tu peux commencer à faire du nitpicking au niveau scientifique, je trouve qu'ils ont fait des choix intéressants, tu sais.
Oui, mais...
Et puis ils sont vraiment au niveau de l'humain.
Comme tu dis, c'est la science-fiction au service d'un drame humain, puis c'est ça qu'on veut quand on se fait raconter des histoires. C'est pas un film de sci-fi pour de la sci-fi, c'est toujours un mélange de genres qui fait des bons films ou des bonnes séries de genres. Ça, c'est un très, très bon exemple de ça.
Ouais,
c'est un show de personnages.
Mon plaisir là-dedans, c'est vraiment voir, comme je disais tantôt, c'est de voir la moralité de certains personnages pliés. Tu sais, quand
tout le temps, constamment.
Ah oui, c'est ça. Mais
ils ont tous leurs moments où est-ce qu'ils sont comme amoraux.
Quand Adama, il dit... Ben, c'est pas nécessairement moralité pliée, mais c'est quand Adama dit détruisez le vaisseau avec il était pas sûr de ce qu'il y avait dedans.
Le
Olympic Carrier.
Le Olympic Carrier.
Quand t'as le Colonel Ty qui fait... sceller le hall puis vanter des gens qui avaient dedans. C'est ça, tu sais.
Il y a même aussi Roslyn qui, à un moment donné, elle va tuer un Cylon après l'interrogatoire, tu sais. Qui est méchant et tout, mais elle passe par-dessus la notion qu'il pourrait avoir qu'on va les traiter comme des êtres humains.
C'est ça.
Non, c'est pas des êtres humains, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de droit.
C'est ce que la science-fiction.
Il n'y a pas de droit, due course, lui, on le. Tu sais, puis c'est questionnable d'un point de vue éthique, tu sais.
C'est ce que la science-fiction, c'est ça qui est intéressant. C'est poser des questions.
Exactement, voilà. C'est toutes ces questions que ça soulève qui rend ça super riche puis super intéressant.
Ça fait un beau drame quand tu viens de te faire exterminer une couple de milliards d'êtres humains qui en restent seulement 50 000 et que ça n'arrête pas de baisser. C'est sûr que tu n'as pas le goût de les traiter comme des êtres humains. Si on est en train de dessiner ta race au grand complet, là.
Mais
c'est toutes ces réalités de la guerre, toutes les absurdités de la guerre, le fait que tu dois sacrifier du monde pour en sauver le plus grand nombre.
Contexte très, très important, c'est que cette série-là, 2003, on n'est pas longtemps après le 11 septembre.
Ah, clairement.
Ça a été quand que le producteur qu'il faut nommer, Ronald D. Moore, qui écrit la série en grande partie, puis qui l'a produit, puis qui était un ancien de Star Trek. Il a vraiment porté cette série-là. Il l'a dit. Il dit, moi, on m'a commandé ça au lendemain du 11 septembre.
Ah oui.
Donc, il y avait en tête, tu sais, quand t'as des Bush qui passent le Patriot Arc, qui dit, on va descendre les libertés des gens parce qu'il se passe une situation extraordinaire. C'était un petit peu ça qu'il se disait. Qu'est-ce que des gens qui sont dans la pire... Parce que Battlestar Galactica, on s'entend, on peut pas imaginer rien de pire que ça. On peut
Zombie Apocalypse, peut-être.
Zombie Apocalypse, mais ça, c'est pas de la science-fiction, c'est dans l'horreur. mais non, tu peux pas imaginer, tu sais, genre, comme, écoute, ils étaient des milliards.
Ouais.
12 milliards, si je me trompe pas.
Un truc comme ça,
il y avait 12
colonies. Il y avait 12 colonies.
Ça fait du monde.
Mettons qu'ils étaient 25 milliards ou 12 milliards, whatever. Puis là, ils sont 50 000, tu sais.
Ouais.
C'est l'anéantissement. Qu'est-ce que ce petit noyau de gens-là font? Quand c'est une démocratie. C'est ça qui se posait comme question. Ouais.
Le mot démocratie a le dos large là-dedans.
C'était la question. C'est un des dossiers qui
en fait, c'est pas plus démocratie que juste une structure de gouvernement pour gérer tout ce monde-là. Moi, la manière que je vois ça, c'est qu'ils ont mis le mot démocratie pour dire, faire plaisir au monde, mais...
Ça en est une démocratie.
Ouais.
Il y a des élections, il y a un président, le militaire qui dicte ce qui se passe.
Les trois quarts de la première saison, c'est pas mal Adama qui a le gros bout. On s'entend. Ouais.
Oui, puis non, parce qu'elle a quand même...
Ouais, elle a quand même son poids, je veux dire. C'est elle qui arrive en disant, on va aller sauver tout le monde et après, on ira faire votre truc.
Ouais, mais elle le convainc
de l'importance de sauver les gens. Parce que lui,
c'est... avec lui, il y a tout de champ pour le convaincre. Ça devrait être le contraire.
Non, mais c'est ça la question qui se pose. Je pense que c'est ça la question de la mini-série. C'est comme genre, il imagine que ça se passerait de même, tu sais.
C'est ça. Il était parti sur un Captain Ahab.
Mais Adama, écoute, il a tous les pouvoirs pour faire juste genre Roslyn. Je m'en fous, là. Mm-hmm. Mais il la garde.
Mais comment ça que ces pouvoirs-là, dans une démocratie, le président est au-dessus de lui, il peut pas faire un putsch.
Mais
il le fait à la fin de la première saison, il fait un putsch.
Ouais, mais tout le monde le suit. C'est comme tout d'un coup, il déclare un coup d'État, puis tout le monde le suit sans rien dire. Pour ça, ça m'a beaucoup surpris. Erreur des scénarios, mais c'était dur à avaler un peu.
C'est parce que tu es rendu un peu
Il y a trois personnes qui le savent. Comment ça que tout le monde suit Adama? Là, ils n'ont pas crié à tout le monde qui avait essayé de sauver le monde. D'ailleurs, la plupart des gens ont l'air d'être des croyants là-dedans, puis elle a su quelque chose qui a rapport avec les textes sacrés, blablabla, machin. Si elle était passée au vote, elle aurait peut-être gagné à 50% plus 1. Là. Donc, c'est un putsch vraiment qui vient de la base des militaires.
Dans une situation normale, où ce que c'est, là, présentement, c'est vraiment l'armée qui a le bout du bâton. Je veux dire, t'as un gros vaisseau avec rempli d'armes, puis ils se font courir après par des Cylons. Si Adama, justement, on disait ça tantôt, s'il décide de partir, il laisse tout nu.
Ah, ça, on est d'accord.
C'est-à-dire, normalement, genre, si t'es sur une planète, puis t'as un parlement, puis tout, si l'armée part, ben oui, il va y avoir des problèmes, mais ce serait pas aussi majeur que se faire rentrer dedans par une armée de robots.
Si la série
de 78... Est-ce qu'elle était axée sur cette espèce de dichotomie? Parce que moi, je regardais justement cette notion-là du mal, les Cylons. Est-ce que ça ressemblait genre une notion de guerre froide?
C'était beaucoup plus dans l'esprit space opera.
Oui, c'est ça. Parce que tout le monde, ça finissait, tout le monde riait.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai.
C'était beaucoup plus camp. Oui, c'est vachement camp.
Je me rappelle d'un épisode où Adama allait sur un vaisseau, puis là, tu voyais le plight des pauvres gens. Mais à part de ça, je veux dire, tu vois juste le beau côté shiny du Battlestar Galactica. Et...
Parce qu'elle est impressionnante, alors, ce remake-là, parce qu'il le dit souvent, ils sont dans le dark. Là, ils sont dans le noir.
C'est gritty, c'est dark. Mais je pense que vraiment, c'est ce qui fait... C'est ce qui fait le charme de cette... Ben, charme, c'est un grand mot.
La qualité.
La qualité de cette série-là, c'est que les personnages sont...
réalistes.
Sont réalistes. On peut facilement s'imaginer ce genre de personnages-là, de personnes-là.
Mm-hmm. C'est avec tous leurs défauts je veux dire, et Adama, tous leurs paradoxes.
Adama, tu le vois comme un General McCarthy, président Roslin, tu le vois, tu mets un peu contexte...
Deuxième guerre mondiale, t'as vu comme Roosevelt.
Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que... C'est des personnages un peu plus grands que nature, mais on voit leur côté humain. C'est ce qu'on voyait pas jusqu'à... Je pense que jusqu'à Battlestar Galactica, à part dans Babylon 5, puis encore là, c'était un... On voyait pas ça. On voyait pas ce côté-là des personnages.
Des personnages qui avaient des défauts, parce qu'il l'a dit, le producteur. Moi, je me suis tapé toutes les...
Les podcasts.
Il lui parle beaucoup. Hein. Alors, si vous voulez savoir sur Battlestar Galactica, vous allez entendre beaucoup parler notre ami Ronald D. Moore, parce qu'il aime beaucoup parler.
Il parle bien, en
dans plus. Dans les podcasts. Puis c'est super intéressant. Tout le... Ouais, comment les...
Le creative process.
Les commentaires là, sur le DVD.
Au niveau, justement, qualité technique et tout, bon, à part que les effets spéciaux, on s'entend sûrement à l'époque aussi, c'est fait en After Effects. Il y a des petits défauts, malgré que... Pour le budget, probablement, qui ne devait pas être si hallucinant que ça. Je pense qu'il se débrouillait assez bien. C'est pas de qualité cinéma, mais pour de la télé, c'est assez grandiose. Mais si on regarde au niveau de la série en tant que telle, il y a quelques faiblesses de scénario par-ci, par-là. Soit des longueurs, soit des trous d'histoire, des choses qu'ils décident de pas expliquer et qu'ils vont penser qu'on s'en rend pas tout à fait compte, mais qui nous traitent toujours en arrière de la tête. C'est quand même pas des grosses faiblesses par rapport à la qualité générale, je pense.
Ben, ces trucs-là, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va toujours les rattraper plus tard.
Il y a des petites choses qui passent.
Non, mais c'est parce que t'es pas...
Il revient avec ça beaucoup
plus tard. Il y a des moments... Vraiment, il y a des trucs qu'il est allé chercher.
Ouais,
là, c'est sérieux, il rattrape des affaires, là. Tu sais, comme il y a des personnages comme... Ben, je veux dire, il y a une de ses grosses faiblesses. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il en parle dans la série. Écoute, je peux pas en parler parce que t'as pas vu la série. Mais ça serait un très bel exemple.
On peut pas se laisser aller tout
le temps. Déjà, mais si on regarde une femme majeure, ça, je suis sûr qu'ils vont l'expliquer à un moment donné, là. Parce que je peux pas croire que ça se peut pas. Tout le monde se pose la question. Comment ils sont passés des modèles de Cylon originaux qui ont l'air des espèces de robots qui ont pas vraiment l'air d'avoir de l'intelligence artificielle plus qu'il faut, à des robots humanoïdes qui sont plus vrais que nature. Il y a comme un gap entre les deux. On se pose des questions sur l'évolution.
Non, mais tu sais, l'explique, excuse-moi, mais moi, c'est pas un problème pour moi.
Pour moi, ça marche pas du tout.
Ben non, c'est pas un problème.
C'est comme si un toaster était devenu un superordinateur par lui-même.
Non, c'était déjà des ordinateurs.
C'est pas de l'intelligence artificielle.
C'était de l'intelligence artificielle.
C'est ce qu'ils ont dit, mais tu regardes les Cylons, comment ils agissent en tant que tels, on dirait des machines programmées. Là.
Ouais, mais les Cylons, c'est de l'intelligence artificielle.
C'est
ça l'idée, parce qu'ils se sont retournés. Déjà qu'ils se retournent
Oui, mais j'y crois pas quand je les vois, les robots.
Ok,
bon. Ils sont pas crédibles au niveau de cette possibilité d'évolution-là.
On peut peut-être aussi dire que les Cylons humanoïdes, ils ont peut-être dumbé down aussi. Ça pourrait être
possible. Ah oui, à quel niveau, c'est correct. Mais il me semble qu'il manque un missing link.
Mais il faut bien la distinction. Peut-être pas au début de la saison, là, mais...
Je pense qu'il en parle un petit peu dans le pas le Pegasus, justement. L'épisode où est-ce que l'espèce de série à part, Razor.
Ouais.
Razor, ouais.
Ouais.
Je pense qu'il en parle un petit peu dans Razor.
Ouais, ouais.
Mais ça sera à voir. Mais
parce que c'est quand même à la base de la série. C'est le retour des Cylons.
Ouais, c'est ça, mais plus tard dans la série, ils vont aborder justement la société Cylon.
Ça intéresse. J'ai hâte de voir ça en Montagne.
C'est quoi les Cylons?
C'est fun qu'ils nous le disent pas trop vite, justement, qu'ils attendent. Je suis rendu à la moitié de la deuxième saison, mais j'en sais pas beaucoup encore. Fait que toute cette anticipation-là.
C'est parce qu'ils savent pas encore.
C'est ça.
Ils sont en train de l'écrire quand tu es en train de l'écouter. C'est ça qui est fascinant.
Tu sais, ça paraît quand même très maîtrisé. Puis il y a toutes sortes d'affaires qu'ils savent pas. Puis ça paraît pas drôle.
Mais c'est impressionnant quand tu écoutes justement les commentaires, puis tu vois, genre, quoi, tu savais pas que tu t'en allais là, là? Genre, c'est comme le truc le super important, la série est toute définie par ça à la fin. Là, c'est une idée qui t'est arrivée, genre, à la fin de la début de la saison. Ouais.
Les grandes séries, souvent, quand tu regardes les making-of, c'est un peu comme ça. Série comme 24, là, que tu dis, ça doit tout être écrit d'avance, sinon, c'est beaucoup écrit au fur et à mesure.
Mais c'était le défi de 24, d'écrire un épisode par semaine.
Mais tu sais, des fois, tu peux te perdre un peu, là. Si tu fais une erreur en cours de route, là, t'es fou pour la fin, mais c'est ça, c'est une équipe de scénaristes de talent, ça rattrape toujours bien le tir à la fin.
Je pense qu'il y a toujours une part d'impro là-dedans.
Ouais.
On sait plus ou moins où on va, mais c'est pas totalement un
on va peut-être. Un des trucs le fun dans Battlestar Galactica, c'est le côté filmé documentaire. Ouais. Genre la caméra là, qui est comme.
Ouais,
ça, c'est
pour ce style-là.
Mais ça ressemble pas à un style documentaire pour moi. C'est très, très cinématographique. Eux, ils décrivent ça comme un style documentaire, mais j'ai pas. Avant qu'il le dise, je n'avais pas remarqué.
Ben oui, tu sais, je veux dire, t'as toutes des zooms, les caméras qui shake à l'époque. Oui.
Surtout dans l'espace, surtout dans les séquences.
C'est des zooms assumés, c'est pas des zooms live documentaires de guerre. Mais, c'est des zooms super top calculés, très cinématographiques.
Mais ce qui est spécial, c'est de voir ces mêmes zooms-là.
C'est quand même une esthétique documentaire.
Ces mêmes zooms-là dans les séquences spatiales. Ouais.
Surtout ceux-là qui sont évidents, là.
Ouais.
Ça, si tu fais un zoom dans la vraie vie, t'es sur le terrain, dans un champ de bataille, tu peux pas faire un zoom qui a l'air d'être ça. La caméra le permet pas, là.
Ça.
C'est comme un...
Mais non, c'est ça.
C'est sûr que ça va... Ouais, c'est sûr que c'est exagéré par rapport à la réalité, mais c'est vrai, ça... ce que tu dis, c'est que d'amener ça aussi même pour cette espèce de regard dans l'espace, comme si t'avais un observateur qui était là,
c'est
qui observait
tout
l'espace.
Ça marche super bien.
On n'est pas dans Space Odyssey, on n'est pas dans Star Wars.
Mais Joss Whedon,
c'est un bon mélange.
Joss Whedon l'avait fait dans Firefly aussi. Je ne sais pas si c'est venu après.
Ouais, mais je trouve que c'est un bon mélange entre le silence de l'espace puis les pew-pew de Star Wars. T'as un bon mélange entre les deux. Parce que oui, tu vas entendre les moteurs puis les balles.
Mais tout est sourd.
C'est ça, moi dans ma tête, c'est vraiment ce que je me dis, bon, c'est ce que t'entends dans le vaisseau, tu sais, mais je trouve c'est un savant mélange entre le silence spatial à 2001 de l'espace puis les pew-pew de Star Wars.
C'est vrai, je suis complètement d'accord. Genre, t'es satisfait, ça satisfait ton envie d'action puis de bruit puis de machin, puis c'est juste pas trop, ça donne le petit truc vraiment subtil.
Puis il n'y a pas que bataille spatiale aussi, ça, il disait, c'était bien important, parce qu'on en revient justement à ce qu'on disait, c'est comme un téléroman, une espèce de drame.
Ouais. Mais ça c'est aussi un beaucoup une histoire de budget.
Un truc que
ta blonde
a aimé. Ouais.
Mais c'est parfait comme ça?
Pas du tout, c'est ce qu'il voulait aussi. Non, ça faisait partie aussi de ses volontés de pas... Il l'a dit au studio... au network, là, qui est commencé en français, studio.
La chaîne.
La chaîne qui est payée. Ceux qui ont le cash. Il a dit qu'il ne voulait pas aller là, dans une espèce de show où est-ce qu'à chaque fois... Tu sais, eux, là, ils
n'allaient
pas avoir un épisode. À chaque épisode, il allait avoir des Cylons qui allaient venir les attaquer et tout. Puis en fait, les Cylons qui sont inquiétants, c'est pas justement ces espèces de robots-là ou même les trucs, parce qu'eux autres... Ils sont là, mais on les voit presque pas. Tu sais, les robots, on les voit presque pas. Là, quand tu penses, ils sont juste subtils. Puis on les voit surtout en plus sur Caprica, on les voit jamais autrement. Les Cylons qui sont épeurants, c'est ceux qui sont within us. Là. Tu sais, c'est les Number Six. C'est Sharon qui est là. Elle ne sait même pas qu'elle est une Cylon puis qui fait exploser l'histoire de l'eau.
Comme complexe,
Qui se suis dit, c'est quand même un peu stupide. Je me suis demandé pourquoi ils gardaient de l'eau de liquide qui pouvait comme. Tu sais, je me suis dit, ils ne pouvaient pas la garder classée en bloc. Ça, mais serait plus logique. Il n'y avait pas besoin de la chauver.
Ouais.
juste un détail comme ça. Tu sais, je pense à un gros réservoir d'eau liquide. Ouais.
On ira demander à NASA.
Non, j'ai pas comme analysé la chose, me semblait qu'au point de vue stratégique, c'était comme pas la meilleure façon de garder de l'eau sur un vaisseau spatial. Ça veut dire que ça prend de la place.
De toute façon, quand ça a explosé, l'eau aurait-tu gelé, genre, quand t'es sur le bord de sortir? Puis...
Peut-être pas, mais c'est juste le fait qu'il la garde déjà liquide. Je me dis, c'est parce qu'il faut qu'il la chauffe pour la garder liquide. Puis c'est quand même, si t'essaies de délimiter ta dépense d'énergie pour une raison... Parce qu'on s'entend.
D'après la technologie qu'ils ont, je veux dire, le vaisseau au complet est chauffé, puis ils ont de la gravité, ils en parlent pas. Donc, je pense que tout ça
est... C'est pas grave, Olivier. Même si tout ton vaisseau est chauffé, chaque espace que tu chauffes te goûte de l'énergie. Puis t'es parti dans l'espace.
Je pense qu'on s'en va un petit peu trop sur le nitpicking. C'est quelque chose...
C'est mon genre de nitpicking. Il y a le nitpicking d'Olivier, il y a le nitpicking de
Marie. Oui, faut boire au nitpicking.
Ce qui est drôle, c'est que c'est moi qui dis ça, le gars qui possède tous les manuels technologiques de Star Trek. Mais bon.
Mais c'est comme...
Excusez-moi, c'est vraiment juste...
Mais de toute façon, le côté scientifique, c'est pas là-dessus qu'ils ont mis l'aspect. Puis ils respectent quand même des trucs de la science. Tu sais, je veux dire, ils sont pas... c'est comme un choix, tu sais, je veux dire. Oui, tu peux... Il y a comme les jumps, ça, c'est toujours la grande question de toute la science-fiction. Le voyage... Toutes les space opera ont ce problème-là. De supposer que nous, êtres humains, tu sais... C'est sûr qu'on peut croire en exploration spatiale, mais typiquement, les gens qui sont sérieux croient en exploration spatiale qui est faite par des entités non humaines, c'est-à-dire des robots, des machines, etc., qui vivraient dans un autre frame de temps, parce que nous, comme on est fait biologiquement, faire une espèce de saut quantique, non, c'est comme...
Ouais, non.
Donc, il y a toujours une espèce de C'est comme presque du fantastique, tu sais. Mais dans l'ensemble, ils font quand même des choix, genre, comme il disait, le thylium, cette espèce de gaz qu'il faut trouver, des ressources qui manquent.
Mais ça va, ils ont tellement bien fait. Comme tu dis tantôt, il n'y a pas trop de science, puis il n'y en a pas assez pour qu'on se pose des questions constamment. Moi, je suis le premier à être en beau pépère à chaque fois qu'on essaie de me prendre pour un cave en me disant, OK, la science marche de même. Puis pourtant, dans cette série-là, il y en a plein d'affaires qui n'expliquent pas en tout. Mais c'est tellement bon show, c'est tellement bien fait, c'est tellement axé sur des personnages que ça passe comme dans du beurre. Ça m'a pas dérangé.
C'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ce qui a amené, parce que c'est une série très, très, très populaire au niveau de l'audience. J'ai l'impression que c'est cet aspect-là qui a amené beaucoup de gens qui, normalement, n'auraient jamais écouté une série pour l'impression spatiale. Ça les a amenés, parce que c'est
du drama, quoi.
C'est du
drame humain, et c'est ça qui intéresse le monde.
Parce que c'est ça, j'aurais pas vu une série avec des extraterrestres, whatever, avoir autant d'impact. Parce que ça a eu quand même un bon impact au niveau de l'audience américaine.
Ce qu'ils ont dit, je pense, pour une des premières fois, il y a eu plus gros ratings au deuxième épisode qu'au premier.
Ouais.
Parce qu'en général, la grande, grande majorité du temps, premier épisode, tout le monde est là, puis là, ça baisse tranquillement.
Alors que après quelques épisodes, là, ça a remonté.
Rating de sci-fi jusqu'à
probablement, ça serait pas surprenant.
Oui, parce qu'ils sont sortis des clichés.
Ouais, c'est ça.
Sordu nous raconte une histoire, ça se passe en science-fiction, mais c'est une histoire pareille.
Non, puis tous ces petits détails de l'ancrer dans la réalité avec, genre, tu sais, les bons vieux téléphones.
C'est ça.
Genre, tu sais, ils tirent pas des lasers, ils tirent des balles.
Ça donne des points de repère aux gens qui sont pas nécessairement habitués à la science-fiction.
Ouais.
Et c'est ce qui est vraiment fantastique. Mais ça marche même pour moi qui étais un habitué de la science-fiction qui. Des fois, c'est le fun, justement, d'avoir ces mêmes points de repère-là puis d'être capable de vraiment plus s'identifier à...
Mais même en tant que fan de science-fiction, moi, ça me plaisait bien parce qu'il y avait... Il y a toute cette notion-là. Un des aspects très intéressants, c'est tout le rapport avec Numéro 6 puis Gaius Matar qui se parlent. Mm-hmm. Cette espèce de rencontre-là entre elles qui croient en un dieu unique.
Ouais.
Eux, ils ont leur dieu. Cette espèce de genre... Hein? Lui, il est comme plus ou moins athée, un scientifique sceptique et tout, puis qui... Elle l'amène à un autre niveau, si tu veux.
Ouais.
Le côté spirituel est bien traité là-dedans. Puis ça va plus loin, je pense, que bien des séries. Là.
Oui, encore là. J'ai l'impression que Battlestar Galactica a ouvert beaucoup le champ à ce niveau-là. Parce que, encore là, il y a beaucoup de sujets que n'aurait pas touché auparavant. Puis que là. En fait, c'est des sujets que Ronald Moore a touché dans Deep Space Nine. Ronald D. Moore a touché énormément à la religion dans Deep Space Nine, dans Star Trek, qui est une série qui, normalement, est très aseptisée. Gene Roddenberry était très fort sur le « Dieu, ça n'existe pas ».
Mais c'est très athée.
C'est très... Mais il y a vraiment mis le point là-dessus. Dans Deep Space Nine, encore, il y a les personnages qui sont plus humains. Tu vois, comme je disais tantôt, on voit la moralité des gens. Fait que j'ai l'impression qu'il a vraiment pris ce bagage-là, puis il l'a mis dans Battlestar Galactica, puis c'est... C'est merveilleux, là.
Ouais, vraiment.
Parlant de spiritualité, dans Voisy, n'est-ce pas? Qu'est-ce que boivent les gens dans Battlestar Galactica?
Ambrosia.
L'ambrosia.
Marie-Louise a réussi à nous trouver.
Mais j'ai trouvé de l'ambroisie. Alors, l'ambroisie, c'est une sorte de boisson alcoolique à base de sirop d'érable. Donc, bien.
Boisson
alcoolique. Boisson. Boisson.
Une sorte de boisson alcoolique.
On a commencé avec le vin, quand même, il faut le dire. Ça s'appelle le roi de Hauteville.
On avait pensé faire du scotch en hommage. Je ne sais pas si Adama, il boit du scotch, mais il boit
c'est pas Adama, ce serait l'autre. Taille. C'est lui l'alcoolique. Ben oui, mais on aimait bien aussi l'idée de l'ambroisie et tout. Je dois dire que c'est la couleur du scotch. C'est pas vert. C'est bien couleur érable.
C'est bien, comme ça, on fait le...
On va goûter les deux.
On a le nom et la couleur.
L'ambroisie vert, comme ça, ça peut ressembler aussi peut-être à de l'absinthe ou à quelque chose un peu flayé.
J'avais pensé à de l'absinthe, mais je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait de l'ambroisie, ça va être plus drôle.
C'est parce que on va être capable de finir le podcast. La dernière fois que j'ai bu de l'alcool dans un podcast, ça a mal fini.
Ça s'est mal fini.
Mais là, nous, on en fait une petite réputation. Pour les gens qu'on va inviter à l'avenir, sachez qu'on a toujours du bon...
Oui, puis SAQ, là, si vous écoutez, vous envoyez des caisses.
Des caisses ambroisies. On va voir ce que ça donne.
Il y a toutes sortes de choses. Faut varier d'un épisode à l'autre. C'est ce qu'on fait à date.
Ça peut être sucré.
José, je t'habitue au sortilège?
Oui, c'est sûrement dans cette vague-là. Un peu. Alors,
attention,
on cheers par-dessus le laptop de Marie-Louise.
Oui, celui qui n'est pas à maganer.
Pas encore.
Pas encore, mais là, t'es là, j'ai peur. On vous racontera un jour l'histoire de mon autre laptop. Mmh,
c'est très bon.
Ouais, c'est très, très bon. Un petit feeling pétillant.
Très, très bon, la petite
ambroisie. Ah, mais ça goûte presque... Mmh. C'est étonnant. Ça goûte du vin de glace, là. Ça goûte du vin de glace.
Donc, pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est une petite séance de dégustation au milieu du podcast.
Moi, je pensais que ça serait sucré, sucré comme une liqueur, mais pas du tout.
Mmh. Donc, c'est quand même assez différent de sortilège. C'est moins liquoreux.
C'est moins liquoreux. Sortilège, c'est du whisky aussi. Non?
Mais ça goûte pas du tout, le whisky. Pour un gars comme moi qui n'aime pas le whisky, sortilège, c'est très bon.
C'est ça, on
s'aurait
servi du whisky, mais là,
Guy ne voulait
pas.
Non.
Est-ce qu'on en profite pour se mettre un petit extrait?
Allons-y.
OK, pendant qu'on boit. C'est parti.
As you were.
Just trying to avoid another trip to the brig, sir.
Lieutenant Trace. Kara. What you did out there today with Liadama. It was... hell of a piece of flying. Commander has always said that you were the best pilot he has ever seen. Well, today you proved it. Now, about yesterday, during the game, well, maybe I was out of line too. I wanted to say, I'm sorry. Well, don't you have anything to say?
Permission to speak off the record, sir.
Granted.
You're a bastard.
You just don't know when to keep your mouth shut, do you? I am offering you a clean slate here.
I'm not interested in a clean slate with you. You're dangerous. You know why?
This'll be good.
Because you're weak. Because you're a drunk.
Are you done?
Yes, sir.
You return to flight status. Let's see how long that lasts.
Qui sont vos personnages préférés à vous tous? Vas-y, Jean-Philippe.
Moi, je vais aller avec un petit peu le personnage le plus évident, mais aussi celui qui a le plus de guts, de puissance. Je pense que c'est le Adama, père. Vraiment, l'acteur qui joue a une stature et une éloquence grandiose.
Edward James Olmos.
Edward James Olmos.
Qui n'est pas son premier rôle non plus.
Non.
C'est un monument.
On
le voit trop
peu.
Et de
Blade Runner, d'ailleurs.
Oui, en plus dans Blade Runner. Mais non, c'est ça. C'est... Quand il part sur un speech, t'es devant la télé, t'as le goût de faire « So say we all! »
Tellement ça.
Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables de faire ça.
Ben, c'est un leader né. Il l'a dans le sang. Tu l'écoutes. Là.
Et puis donc, ouais, comme je te disais tout à l'heure, il paraît que le « So say we all », c'est lui-même qui l'aurait ajouté pendant le tournage. T'sais. Et c'est resté pendant tout le truc.
Oh my God.
Non, c'est ça. Puis je trouve qu'il se perd bien justement avec... Ben, on parlait de structure familiale, mais je sais pas, il fait un bon rôle là, au niveau du top de la pyramide avec Rosalind. Ils font une bonne paire.
Ouais. Ouais, c'est deux beaux contraires, hein, ça va faire.
C'est un très beau contraste. Ouais.
Mais ça fait presque cliché américain, là, papa a raison, là, le figure du père, figure de la mère, tu sais.
C'est
tout ce jeu aussi constant entre le militaire, le politique, tu sais, c'est du West Wing dans l'espace, là, finalement. Ouais. Qui d'autre?
J'ai deux personnages préférés, OK? Puis c'est comme deux contraires d'une certaine façon, mais qui couchent ensemble quand même. C'est Baltar, Caius Baltar, que j'adore, le docteur, le côté... Ça, c'est le personnage, comment dire... insignifiant, là, tu sais. Je veux dire, il est tellement... Il est supposé être super intelligent et tout, mais tellement narcissique, tellement égocentrique, c'est la cause de la fin de la civilisation, puis il se fait sauver. T'as même le pauvre gars dans la mini-série qui dit « Je laisse ma place à ce génie-là », tu sais. Il est mille fois meilleur que lui, tu sais. Puis il laisse sa place pour qu'il puisse embarquer sur le vaisseau.
C'est paradoxe.
Puis tout le long, là, il est comique, son rapport avec le fait qu'il y a comme un sirène dans sa tête, puis c'est pas clair plus tard dans la série. C'est-tu dans la saison 2 ou est-ce qu'on la voit... Elle, de son côté?
Deux ou trois, je pense. Je suis pas
deux
sûr.
Ou trois, c'est trois, OK. C'est parce que je veux pas vendre des punchs à Olivier. Mmh. Mais, tu sais, j'adore cette espèce de dichotomie entre les deux personnages, comment ils se... La possession qu'il y a d'elle.
Parce que ce qui est toujours drôle, c'est de voir comment ils s'arrangent pour faire deux conversations en même temps.
Ça, c'est génial.
C'est excellent.
Il y a une scène incroyable où il parle à Roselyne. Et il y a numéro 6 en même temps. Les deux, ils posent des questions différentes puis ils s'arrangent dans sa réponse.
Pour répondre aux deux.
Je pense avec que dans Lay Your Burdens Down, c'est juste qu'il...
une des plus belles scènes de la série. Non, c'est juste complet, qui... je me pissais dessus de joie. C'est de la scénarisation grandiose.
Ce comédien-là, il est extraordinaire. T'sais, il amène du comique aussi. Il amène beaucoup de comique à la série. Tout est noir, etc.
C'est un comic relief. C'est le seul.
Il est complètement schizophrène. Des fois, il est super sérieux. D'autres fois, il est super inquiet. D'autres fois, il est super drôle.
Il est super player. Totalement égocentrique. Il ne pense qu'à lui. Il est pathétique. C'est vraiment un personnage pathétique. Puis l'autre personnage que j'adore, c'est vraiment Starbuck, qui était un gars à l'origine, qui ont décidé de mettre en fille, puis que c'est une fille qui est plus, je trouve, gars que le gars original. Corrige-moi si je me trompe. Écoute, j'ai pas vu l'original, j'ai pas vu Starbuck original, mais juste voir des photos de Starbuck original.
L'original, c'était un peu le modèle de Han Solo. L'original, c'était un peu le modèle de Han Solo.
Mais faut dire aussi que Dirk Benedict a joué dans The A-Team par la suite. En plus, donc, au niveau masculinité, c'est dur à battre.
Non, mais il est mignon, là. Je veux dire, je coucherai avec, là. C'est pas de problème. Mais je trouve qu'elle a vraiment un côté vraiment fucking bad. Elle est. Jamais, il y a jamais, là, tu sais, des fois, quand ils mettent des filles qui sont comme un peu, je dirais, masculines, c'est qui ont du caractère et tout, il y a toujours un moment où est-ce qu'elles craquent, qu'elles deviennent fragiles.
La Vasquez.
Non, mais il y a toujours. Vasquez, c'est juste un.
Ouais, c'est
mais
un gars. Non,
mais en tout cas, j'aime beaucoup sa présentation. Tu sais, le côté, genre, je te donne un coup de poing, sa spontanéité. C'est le contraire de justement l'autre personnage que je viens de parler, là, de Dr. Balzar, parce qu'elle est complètement honnête, droite.
Si on parle juste au début de la mini-série, quand elle flippe, quand le exo flippe la table, puis elle va juste... Il l'a provoqué, mais en même temps, c'est son défi supérieur. Mais elle a fait ce qu'elle pensait qui était juste. C'est dans l'esprit du personnage.
Mais genre, elle a remis à la place un asshole, tu sais. Ouais, c'est pas compliqué. Si t'es un asshole, tu sais, c'est pas parce que t'es mon boss. Tu sais, je veux juste comme. Elle agit. Elle réagit à ses émotions, puis elle a toujours la bonne émotion pour agir. Puis toute la un de mes épisodes préférés, c'est vraiment l'épisode où est-ce qu'elle rentre dans le cercle, de truc de...
Dans le Raider,
ils l'ont perdu et tout. Puis ils rentrent pas dans un truc cucu où est-ce qu'ils vont finir par la retrouver. Il faut vraiment qu'elle... Tu sais, je veux dire, ils l'auraient jamais trouvé si elle avait pas été capable de retourner vers eux. C'était vraiment bien fait. C'était bien fait parce que ça avait un côté des militaires qui voulaient pas abandonner de la chercher, mais finalement, c'est pas parce qu'ils l'ont trouvé, à la fin, on finit, on a cherché tout le long, on l'a trouvé. Non, c'est pas ça qui se passe, c'est que genre, elle a réussi de se démerder pour revenir, puis c'était...
C'est marrant, au départ, je trouvais que le personnage de Lee était le moins intéressant, au tout début, tu sais. Il est comme un peu, pas insignifiant, mais il est discret, il est comme...
Il est un peu plat, il est un peu bête.
Petit à petit, il trouve sa place vraiment là au milieu, puis c'est vraiment ce personnage très droit, tu sais, qui essaie toujours d'être le juste milieu, tu sais. Il est pas pour l'un, il est pas pour l'autre, mais il essaie toujours de trouver le truc qui va faire.
C'est comme au début de la série, il dit you gotta choose your camp. C'est ça, parce qu'il joue du côté du président, puis il joue du côté du militaire, mais...
il est capable de tenir terre à son père finalement.
Son père avait tant de mettre ce challenge là parce que il avait raison, parce que c'est ça la situation qui arrivait. Mais tu sais, il reste 50 000 personnes en exil, tu devrais pas avoir des camps. Et que le monde s'embarque les uns contre les autres. Fait que
ça me fait penser aussi à Tom Zarek, tu sais, qui arrive, puis qui, avec ses grandes idées de communauté, etc. Mais il a complètement raison, en fait, finalement. Tu sais, t'es genre, il reste plus que 50 000 personnes, là. On n'a plus de pognon. Ça sert à quoi? Regarde le jardinier, là, et qui bosse, il fait son boulot. Mais pourquoi? Parce qu'il l'a toujours fait. Mais ça ne sert plus à rien. Là, il a pas touché son chef.
Qu'il y a une idée derrière de la tête.
Zarek est vraiment intéressant aussi.
Oui.
C'est vraiment, il est bien amené.
Encore pour l'anecdote, parce qu'il faut en mettre.
Ben oui.
C'était Apollo dans la série originale.
Richard Hatch.
Je serais pas super original, mais tu sais, je vais faire un changement. Je vais dire mon meilleur et mon pire personnage. Mais je sais pas, mon pire, peut-être qu'elle arrive à la saison 2, vous allez me corriger. Mon meilleur aussi, c'est Starbuck. Parce que j'aime sa contradiction en elle-même, parce qu'elle joue un personnage de gars macho, parce qu'à la base, effectivement, c'est un personnage de gars, puis elle joue magnifiquement bien, elle est très macho, mais c'est la fille la plus sweet de tous les temps en même temps, qui est aussi fragile et gentille.
Pas fragile.
Super fragile.
Elle est pleine de fragilité, ouais.
Mais j'appellerais pas ça la fragilité, elle est sensible. C'est pas la même chose.
Oui, OK. Ouais.
Parce que fragile, c'est pas ça.
Oui, okay, okay, excuse-moi, d'accord, t'as raison.
D'accord, d'accord.
Mais c'est un beau contraste entre les deux. Jamais en public, elle va enlever cette carapace, cette façade-là de dur, qui est un peu la super-héros de la gang, parce que c'est elle qui est sur le terrain et qui va faire un peu la... Comme tu disais, elle va à l'instinct beaucoup, puis elle essaie tout le temps de faire la bonne affaire sans trop réfléchir, juste en y allant. Elle dit, sur le coup, ça peut pas être trois affaires s'il y a une bonne solution à tout ce qui se passe à chaque moment. Donc, tout de suite dans l'instinct, toujours en train d'essayer de faire le mieux pour tout le monde. C'est comme un peu la guerrière sur le terrain.
C'est le héros.
C'est le héros.
Ouais. Ouais.
Mais c'est ça en même temps, elle est super cute, elle est super sweet, puis elle est super...
Ouais, moi, j'ai un peu un crush.
D'accord, mais moi, on va la casser dans un de nos films.
Ah, ben, certain.
D'ailleurs, on la voit trop peu.
J'ai écrit un film en pensant à elle, d'ailleurs, que je t'ai fait lire, on en reparlera.
Et cette fille-là, c'est parce qu'elle dégage plus qu'elle a une beauté physique plastique. Parce que si on la regarde, elle a vraiment shapé carré, puis tout ça, c'est pas un pétard en plastique. Moi, c'est
pas number six. C'est pas number six, exactement. C'est pas number six.
Je la trouve bien plus belle que number six parce qu'elle dégage.
Oui, c'est ça. Tu sais, comme t'as plus envie de partager une intimité avec cette personne-là.
C'est une fille correcte, tu sais qu'elle va être sincère et sweet si tu l'as dans tes bras, tu sais, alors que number six, c'est bullshit après bullshit après bullshit. Bon, bref.
Mais c'est Cylon aussi, on peut dire.
Cylon.
C'est quoi la personne que de ton...
Je pense qu'elle arrive à saison 2, c'est la femme du EXO.
Ah, ouais.
Ah, non, elle est développée plus tard.
C'est un cliché. Cliché grandé.
Non, elle arrive pas au.
Fin de la première?
Fin de la première. Mais elle est développée par la suite.
Elle
est faite de même, mais tu vas voir.
Elle est là pour qu'on la hisse, là. Non, mais...
Oui, mais il y a des moments intéressants à un moment donné quand on arrive sur New Caprica.
Ouais. Mais ça,
ouais, ça c'est un moment
intéressant. New Caprica, venez de me stouler un autre. Ben, parlant de ça, là, il trouve Cobalt là, vers le trois quarts de la saison 1. Puis là, il dit, faut qu'on trouve le tombeau d'un tel avec la flèche d'un tel pour aller sur la Terre. Chris, venez trouver une planète. Là. Restez donc sur Cobalt. Pourquoi?
Mais non, les silos sont là.
Ben oui.
Les silos sont partis. Ouais. Non, mais ils savent qu'ils sont là.
Ouais. Il y a une base qui est juste devant. Il y a tout un tel.
Oui, c'est ça, ils peuvent pas, ils sont des Cylons.
Mais non, les Cylons, à Mané, ils s'en vont quand ils vont aller dans le tombeau, les Cylons sont partis.
Oui, mais
ils peuvent revenir à n'importe quel moment.
Ils peuvent revenir à n'importe quel moment, ils savent qu'ils sont là.
Donc, ils veulent trouver. Oui, mais ils sont infiltrés par plein de Cylons, ils le savent.
Oui, ça va faire partie du dilemme, justement, tout le long du truc.
Est-ce qu'ils vont sur la Terre parce que dès qu'ils.
C'est ça. À un moment donné, ils s'en rendent compte qu'il y a des Cylons partout, puis c'est de savoir qui est un Cylon, puis tu vas voir.
Puis, le fameux test là, de Dr. Baltar qui a faké. Est-ce qu'il marche son test? Mais
ben oui,
ils en ont parlé jusqu'à ce que c'était important. Puis là, oups, ça fait comme 8 épisodes.
Ça revient, il va revenir le test.
Il faut que ça revienne.
Peut-être qu'il revient par la suite. Je me rappelle plus très bien.
Mais il marche.
Mais c'est vrai que, ils en parlent beaucoup à un moment. Puis tout à coup, c'est comme.
Ça, c'était intéressant.
Ouais, mais c'est qu'à un moment donné, ils connaissent tout.
Oui, c'est ça. À un moment donné, ils finissent par savoir c'est qui.
Mais dans
ils connaissent les 6. Ils savent qu'il y en a 12. Ça, ils le savent. Puis ils en connaissent
6, 7. Non, mais il y en a techniquement 7. Il en connaît 6 parce qu'il y en a un qui boxe.
Il y a quelque chose par rapport au test qui ne marche pas. Parce que le test fonctionne, puis quand il teste la petite chinoise qui est une Cylon, je ne me rappelle pas son nom, Sharon, il a sa réponse en 2 secondes d'écart. Puis après ça, quand il passe sa batch de test, c'est 13 heures pour avoir un résultat.
Il
manque un mot. Ça, il ne l'explique pas.
C'est sûr, ça, que ça ne prenait pas plus de temps que ça?
Il l'a testé live dans sa face à la fille, ça a pris. Pendant qu'il jasait avec, ça a
pris. Rouge qui est sorti, puis il dit
non, c'est pas ça. Pas passé de même. On va retourner voir.
Oui,
moi, je pense qu'il a pris son petit truc de sang et tout, puis il l'a testé, puis il est revenu.
C'est pas que c'est même que la selle
est montée. Ça a peut-être tout été fait pour le bien de la dramatique.
Non, mais je pense que c'est clair.
Moi, je suis assez de la vie de Jean-Philippe.
Bon, écoutez, ceci dit...
Bref.
Je pense les scénaristes quand même sont très soucieux. C'est bien intéressant.
Oui, ça paraît...
As-tu écouté les commentaires de parce que c'est vraiment intéressant, il parle beaucoup
non,
de son processus.
Non, j'ai écouté le Making of, par exemple.
Il parle beaucoup de son processus d'écriture.
Je crois qu'à partir de la saison 2, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a normalement tout est sur le DVD, c'est qu'il y a un podcast. Moi, je l'écoutais à chaque fois, tu sais, à chaque épisode qui passait, le lendemain, tu avais le podcast qui était disponible, puis tu réécoutes l'épisode, puis il parle pendant l'épisode.
C'est le
quoi,
producteur.
Pourquoi, comment, donc Moore.
C'est bien.
Ron Moore. C'était vraiment super intéressant, quoi. Je me suis fait toutes les, tu sais, les 3-4 saisons.
N'importe qui est intéressé par l'écriture, qui est intéressé par cette série-là, il faut absolument que vous écoutiez les
Podcasts,
les commentaires sur le DVD. c'est plein d'informations, c'est toute la réflexion. Puis tu sais, il y a des détails intéressants aussi. Tu sais, comme à un moment donné, il dit ouais, on a eu plein de bullshit parce que genre dans l'épisode où est-ce que Kara est dans le justement sur la planète qu'il y a pas d'oxygène, tu sais, elle enlève à un moment donné son masque 2 secondes pour prendre le truc. Puis là, les gens ils disent, elle aurait explosé et tout. Puis il dit c'est pas vrai, ça marche pas de même, etc. Parce qu'on a plein de clichés de science-fiction, genre tu sais dans.
Ouais, comme. Parce qu'il y a un peu énorme, c'est que tu la vois colmater.
Total Recall, à la fin ils explosent, mais c'est pas de même que ça se passe.
Le truc c'est que tu la vois colmater. Le hall, ouais. Là, tu sais, du Raider, ouais, là, avec ça. Un bout de je sais pas trop quoi.
Mais moi, ce que j'ai jamais compris, c'est le fameux flight suit. C'est comme comment qu'un petit flight suit de même peut. Je comprends qu'il y a un petit collier là, autour du casque, là, mais comment t'es supposé être dans survivre à une décompression dans l'espace?
Mais c'est ça qui est expliqué, c'est que la décompression, on s'imagine toujours que c'est pire que c'est. La différence entre zéro de pression puis la pression qu'on a sur Terre, c'est comme l'équivalent de quelqu'un qui s'en va sous l'eau.
Ouais.
Donc, quelqu'un qui s'en va sous l'eau très profondément, ça, s'il ne fait pas ses paliers de décompression, ses poumons vont exploser. Donc, oui, tes poumons vont exploser, mais ça ne veut pas dire que ton corps va exploser. Moi, je ne savais pas ça non plus. Là, j'ai analysé les choses. Là.
Mais selon ce que tu me dis, la meilleure scène de décompression que j'ai vue, c'était dans Event Horizon, oui. Dans ce cas-là.
Ouais, ouais,
ah oui, 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 oui.
Tu mets à saigner les yeux, ma nez, t'en as 60 heures dans le hors d'air, c'était écœurant.
J'ai eu des cauchemars pendant un bout.
Ils sont comme « Baby bear, baby bear! Vite des poumons! Mets-toi en bol! »
C'était traumatisant, ce truc-là.
Je
l'ai vu il n'y a pas longtemps.
On va le faire, Event Horizon.
Ah, oui,
je ne sais pas, c'est un truc qu'on a parlé ou on en a parlé avant, le fait qu'il n'y ait pas d'extraterrestres.
On en a parlé avant de commencer.
Oui, parce que ça, c'est un truc vraiment intéressant.
Et dans la série originale, les Cylons sont une race extraterrestre.
Oui, ils sont faits par des lézards. C'est une race de lézards qui fait des extraterrestres.
Ils sont une race extraterrestre.
En fait, c'est des robots faits par une race extraterrestre qui est une twist intéressante quand même, qui a été anéantie par les Cylons.
Ouais.
OK.
Oh, ça,
mais
c'est
je me rappelle du Baltar original.
Non, mais il y avait des bonnes idées. Mais là, de le ramener tout à une dimension beaucoup plus humaine.
Non, puis le fait qu'il n'y ait pas d'extraterrestres, ça donne à la série de science-fiction-là un élément très intéressant parce que c'est toujours un défi, les extraterrestres, je trouve, dans la science-fiction.
Ça devient complexe quand ça fait un niveau de plus.
Oui, puis on n'aurait pas eu Edward James Olmos parce que dans son contrat, c'était stipulé qu'il voulait à aucun moment qu'il y ait des extraterrestres qui apparaissent dans la série. Un truc comme ça. Sérieux. Parce que lui, au départ, il paraît même qu'au départ, il avait refusé de lire le script qu'il avait reçu parce qu'il se disait ouais, ça va être un truc quimpy comme l'ancien là, un truc un peu rigolo comme la vieille série.
Ouais.
Et puis c'est autour de lui en fait, c'est genre mais non, allez, lis-le et tout, c'est sûrement très bien, etc. Puis et au bout de 4 pages, c'est bon, il était dedans. Genre il a appelé moi, c'est bon, je le fais. Mais il paraît sérieusement que dans son contrat, enfin, j'ai lu ça dans le trivia, tu sais, que dans son contrat, c'est stipulé comme quoi il fallait pas d'extraterrestre.
Mais non, mais c'est une des grandes qualités de cette série-là, parce que l'un des problèmes au niveau de la science-fiction avec les extraterrestres, c'est qu'on les c'est toujours des humanoïdes.
Ouais, c'est
ça. Puis le problème avec le fait que ce soit des humanoïdes, c'est que la chance qu'il y ait une évolution qui a amené à des humanoïdes, c'est quand même presque impossible. Déjà, c'est impossible qu'on rencontre des extraterrestres, parce que c'est très rare, tu sais. C'est comme.
Ouais. L'équation de Drake. Je sais pas si tu connais.
Non, mais...
Audience.
Je suis d'accord avec elle.
Un défi!
Non, je suis d'accord avec. J'ai peut-être déjà lu quelque part, mais tout à fait. L'étoile de Drake.
Drake.
Comme break, mais avec un D.
Explique-nous l'étoile de Drake pour comme...
C'est une série de variables selon le nombre de soleils, le nombre d'étoiles, le nombre de planètes en moyenne autour d'une étoile. Et tu dis
la chance qu'il y a une exoplanète, c'est ça.
C'est toutes les tes 7 constantes qui font que c'est genre le fait qu'il y ait une lune autour de la Terre, ça nous protège des
entre autres
des météorites,
les probabilités qu'on puisse
je pense que la dernière c'est genre si la civilisation c'est pas auto-anéantie avec un
c'est pas juste ça, c'est que la théorie d'évolution par les mutations n'amène pas nécessairement des humanoïdes,
non, c'est ça.
Ça amène pas des singes nécessairement. T'avais les dinosaures avant que t'aies les mammifères. Si
t'avais pas de random astéroïdes, ce serait encore des dinosaures.
Puis il y aurait pas nécessairement d'intelligence cognitive.
Il y aurait des dinosaures plus intelligents.
Mais pas nécessairement, parce qu'il y a rien qui suppose que l'intelligence Tu sais, je veux dire, les dinosaures seraient peut-être restés juste des dinosaures, puis ils auraient comme pullulé, tu sais, je veux dire. Les fourmis, tu sais, peut-être qu'il y a des planètes que c'est plus... J'aimais bien dans Star Trek l'idée des Borg, parce que c'était justement une civilisation qui était comme des fourmis, tu sais. Cette idée-là que... Moi, je trouve que dans Childhood's End, c'est pas pire aussi, les... Comment ils s'appellent? Ils appellent les Bugs. OK? Eux autres, c'est une civilisation qui est assez différente de nous. Puis il y a une incompréhension justement entre la race humaine qui rencontre cette civilisation-là. Eux autres, c'est comme des fourmis, puis ils comprennent pas. Eux autres, ils tuent les êtres humains, mais ils comprennent pas que ça crée un problème parce que eux autres, s'ils se tuent, ça n'a pas d'importance puisqu'ils sont comme des fourmis, puis c'est la mère qui compte, tu sais. Donc, tuer un être humain, c'est comme si je te coupais les cheveux, ça, tu sais. Donc, ça, c'est rare. Ben, peut-être plus dans la littérature, ça va, mais souvent au cinéma, là, genre dans les Star Wars et compagnie, mais les Star Trek, là, c'est presque comique. Là. Ils arrivent sur des planètes, puis il y a des belles pitounes là, comme extraterrestres. C'est juste comme... Puis ils parlent tout anglais, bien sûr. Ah ouais. Donc, moi, je trouvais ça bien que dans cette série-là, ils ne rentrent pas dans cette défi-là.
Ils ne se perdent pas,
ils se perdent pas là-dedans. C'est pas là. Puis c'est vraiment l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est bon aussi, parce que ça a été créé par nous. Puis c'est toute la question... Bon, de Blade Runner et compagnie, c'est quoi être un être humain, tu sais, le robot...
Mais ça couvre aussi le transhumanisme un peu et... Ça va couvrir, en fait, même pas juste au niveau technologique, la série va couvrir les sujets justement, bon, Patriot Act, l'esclavage, le racisme... C'est genre les gens de Toronto que genre tout le monde crache dessus juste parce qu'ils viennent de là, tu sais, c'est comme...
Évidemment, c'est une noire qui vient de cette pays.
C'est ça, tu sais. c'est vraiment intéressant, puis c'est ce que la science-fiction fait de mieux, c'est vraiment...
Toucher à tous ces thèmes-là.
Mais c'est parler d'aujourd'hui avec une
c'est un peu ce que Star Trek a fait des années 60. Star Trek a couvert, sous le couvert de la science-fiction, a couvert énormément de sujets. Le Vietnam, encore la guerre, le racisme...
Tous les
problèmes de la société, ça passait parce que c'était de la science-fiction.
Fait que le monde ne se rend pas compte tout de suite qu'ils parlent de sujets lourds qui ont une influence dans leur vie.
C'est juste que c'est drôle parce que là, c'est des sujets lourds dans une série lourde, sauf qu'on dirait que ça passe mieux parce que le message passe plus clairement, je trouve, mais vu que c'est sur le guise de justement, je pense que vraiment le gros point de la chose étant la guerre contre le terrorisme. Tu montres du monde qui ont vraiment vécu là, le pire du pire au niveau terroriste, puis ça montre que le genre de solution qu'ils ont essayé d'amener aux États-Unis, même quand t'es dans une situation super dramatique, ça va pas nécessairement résoudre tes problèmes. Ça va juste en créer d'autres.
Ben, tout l'épisode où est-ce qu'ils pognent le salon puis ils le torturent et tout, il était intéressant, là, cet épisode-là.
Guantanamo Bay.
Parce que c'est le méchant, etc. Mais qu'est-ce que ça leur donne, tu sais? Ça leur donne rien. Ils sont plus fuckés à la fin, là, parce que là, c'est l'épisode... Après cet épisode-là, ils commencent à tous se soupçonner, tout le monde, là, tu sais?
Puis même aussi, tu parlais de la spiritualité tout à l'heure, mais tu sais, aussi le fait que t'as un ennemi qui a des croyances différentes que les tiennes. Ouais. Enfin, tout ça, ça rejoint tout ce truc de, tu sais, Al-Qaïda, tout ça, machin, tout ce que tu veux, là. Et c'est vraiment la grande force de cette série, quoi. On a fait le tour des personnages préférés.
Moi j'ai dit
que j'avais un crush sur Starbucks aussi.
c'est
clair.
Donc vous aimez pas la belle blonde qui est toute canadienne d'ailleurs. Elle fait bien quand même.
C'était son premier rôle. Son premier rôle ever, c'était une modèle avant. Puis c'était son premier rôle de carrière, vraiment, autant au cinéma que
t'es. Franchement, elle s'en tire rôle, bien. Mais quoi.
Son côté sexy, je trouve que moi, elle m'excite pas le poil des jambes. Là. C'est pas mon genre.
Elle a été engagée pour coque, qu'elle...
Parce qu'avec sa vie de voir, elle peut coucher avec toi, je vais dire non tout de suite.
C'est officiel.
on s'entend, elle a été engagée pour une chose principale, c'est son...
Son sex appeal,
puis elle joue bien, tu sais, je veux dire.
Ouais.
C'est pas compliqué.
Mais je la trouve. Mais plus la série avance, écoute, dans l'épisode qu'on parlait, où est-ce qu'il y a la capitaine.
Elle McCain, ouais.
Elle est bonne là-dedans. Elle est super bonne. Elle fait comme le.
Surtout que quand on regarde la mini-série Razor, où il y a beaucoup plus de subtilité entre les deux personnages.
Ouais.
Tu vas voir, inquiète-toi pas.
Razor, ça vient, c'est un TV movie qui vient entre la saison 2 et 3.
2 et 2.5, je pense.
Ah, c'était au milieu de la 2. Entre 2 et 2.5.
3.5, je
pense. C'est parce que dans la troisième saison, il y a eu la grève des screenwriters.
Ouais.
Ah. Ouais.
Non, c'était pas la quatrième.
Non, c'est...
Parce qu'il y a eu
c'est la quatrième, c'est
vrai. Ouais, il y a eu un break énorme au milieu de la quatrième saison. Là, on a attendu comme... 6 mois, un an, je sais plus. Là,
comme... la
mais non, c'est parce qu'à un moment donné, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on dirait que Sci-Fi a
pas. Confiné avec lui-même.
Sci-Fi s'est dit, on va vendre.
C'est Lucky Out lui-même. C'est son cerveau, sa partie gauche, sa partie droite, son cerveau.
Mais c'est que j'ai l'impression que Sci-Fi a fait, on va faire plus d'argent, on va vendre plus de DVD si on sépare les saisons en deux.
Je sais pas, peut-être.
C'est pas des saisons longues, genre, qui parce que c'est,
ouais, c'est quand même 13 épisodes.
Ouais, c'est-à-dire
non, 13 épisodes, c'est la
c'est
première.
Comme,
il était tout le temps.
Ça remonte à 20.
C'est comme Breaking Bad, que genre, comme il y a une saison 5.
Ah,
comme...
Fringe, sont... ils font la
même chose. Non, mais je comprends pas,
ce moment,
c'est
saison
5.
Dead font ça.
Non, mais c'est ridicule.
Ils coupent les saisons en deux.
C'est pour vendre plus.
Oui, mais dis, c'est la saison 5, mais comme sur 2 ans. Tu sais, je veux dire, c'est une saison 5 de 8 épisodes, puis c'est une saison 6, comme on, là.
Non, c'est parce que eux autres, c'est des demi-saisons. Avec Breaking Bad, c'est. Parce que sur 13 épisodes, ils doivent être rendus à 6.
Ouais, mais c'est ça, mais maintenant c'est devenu un truc
avec
marketing.
Que 13 épisodes fois 2 par année.
Tu fais ton mid-season cliffhanger.
C'est
le nouveau truc marketing.
Mm-hmm. C'est rendu un trend. C'est ça.
Pour garder ton public.
Tu veux que le monde revienne, tu leur donnes un petit break de 2-3 semaines pendant le temps des fêtes, puis même un mois.
Ah, des fois un peu plus même. Mais je me rappelle.
Peut-être le temps de finir la post-prod aussi, parce qu'ils cannent ça tellement vite. À un moment donné aussi, il faut faire le montage, la colo, puis tout ce machin-là. La bonne musique.
Hey, parlant de musique.
Ouais.
Musique de Star Galactica, on n'a pas parlé encore.
Peut-être petit facteur intéressant, Richard Gibbs qui a fait la musique pour la mini-série. Et ensuite, pour le restant de la série, c'est Barry McCurry qui est rentré.
Il avait aidé avec lui pour la mini-série. Hein, c'est ça. Hein.
Mais honnêtement, je pense que je ne suis pas tout seul à avoir adoré la soundtrack. Moi, il y a un morceau là-dessus qui est vraiment touché. Je vous conseille de lire la YouTube. Ça s'appelle Wonder My Friends. C'est une pièce qui est écrite en gaélique. Et c'est la tu sais, c'est vraiment le
ouais,
thème
c'est
un peu. Le thème.
C'est pas Klingon,
non,
ça?
Mais. Non. Mais c'est vraiment le thème où que, ils se réunissent, puis c'est la belle fin, je pense un peu, où, là, quand ils qui détruisent la base de Tilium, puis t'as.
Ouais, cette réunion, là,
la réunion, où il redonne le lighter à son père. Ouais. C'est ce morceau de musique-là.
Ouais, super beau, ouais. Rien que d'y penser, ça me fout des frissons.
Oh, ouais.
Bon.
Je l'ai là dans mon ordinateur.
Et on pourrait peut-être la mettre.
Ben oui,
on la met-tu?
Un extrait vidéo, mettez-la.
Ah, ouais, un extrait musical.
Alors,
oh, c'est bien. C'est une bonne idée.
Là me faisait penser un peu à Brave Heart, puisqu'on était tous d'accord.
Ouais.
Une sorte de beau mélange de musique écossaise avec
tambour militaire.
Bien intéressant. Là, on enchaîne, parce qu'on jasait
pendant
l'extrait.
On n'est pas justement dans cette espèce de truc musique progressive électronique.
C'est ça.
Là, t'as
une belle erreur de faire ça.
Non, c'est ça.
Il y a quelque chose, il y a de la texture. Puis c'est pas tout
il est retourné aux sources quelque part.
C'est
de la musique tribale sur
les 13 tribus de l'humanité.
C'est qu'on mélange les genres, on mélange les époques. Dans la direction artistique, quand vous écoutez le making-of de la première saison, c'est vraiment le fun de les écouter parler. Puis c'est une gang de tripeux de là. Le fait que la série est vraiment de haute qualité. C'est pas la direction artistique. Ils mélangent des éléments des années 40, 50, 60, 70, beaucoup d'éléments rétro. Parce que le Battlestar Galactica, ils ont dit pourquoi il a survécu, c'est parce que c'est un vaisseau qui n'est pas connecté à un réseau, donc il a pu survivre au virus.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche avec l'histoire.
Ben oui, ça marche.
C'est ça qui est formidable.
C'est tout du vieux matériel. Donc, ils sont allés chercher des vrais téléphones qu'ils ont trouvés dans un sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale. Gros téléphone, là, quand Adama, il casse son monde, puis il envoie des messages.
Je sais pas, mais visuellement, ça le fait, quoi.
Ah oui, ça marche au fond. C'est la technologie mélangée avec ça.
C'est tellement bon, quoi.
C'est beau, c'est plein de textures.
Juste pour tourner un peu la musique, j'ai bien aimé les petites références au thème original.
Oui.
Qui en fait est devenu le thème des 12 colonies.
Ouais.
C'est devenu c'est le thème des 12 colonies qui est le thème de la série originale de
Star Trek. Ah oui, OK. Mais ils font plein de clins d'œil à la série originale. Il y a une scène où est-ce que tu vois un vaisseau spatial. C'est un des vaisseaux.
C'est de les Viper Mark II, c'est ceux qu'ils utilisent dans la série.
Non, mais pas juste ça. À un moment donné, il y a plusieurs vaisseaux là, dans la
flotte. Ah oui, des vaisseaux si longs.
Pas les filos, puis en utilisant que c'est vraiment un truc qui est original de l'époque. Là.
Oh, oui, non, c'est ça. Puis c'est quelque chose, je pense, que j'apprécie parce qu'il honore en quelque part la série originale.
Ah oui, ils se sont basés, ils ont reconstruit.
Ils font le lien. Ils parlent de la guerre de 40 ans plus tôt. Donc, t'as un vrai lien, quoi, quelque part. OK, il y avait des personnages que tu retrouves maintenant.
Non, mais les personnages, tu sais, comme t'as des personnages qui étaient importants dans la série qui sont là quand même. Tu sais, comme il parlait d'un personnage, j'ai pas vu la série originale encore, mais je sais qu'il y avait un personnage qui s'appelait Boxy, qui était un enfant qui était important original.
Ils l'ont visiblement.
Mais il vient. Non, mais il est là.
C'est ça. Dans la série originale, c'était un peu, ça faisait partie un peu du camp. Tu sais, c'était un peu le comic
relief. C'était Wesley Crusher un peu.
Ouais, c'est un peu. Tu sais, voilà, c'est le petit gamin avec son petit chien robot là. C'était un peu. Quand j'y pense là.
Dans la mini-série,
ils l'introduisent dans la mini-série, puis après ils l'ont juste oublié.
Ouais, je pense parce qu'ils pouvaient pas.
À mon avis, les fans ont fait comprendre comme quoi.
Il avait pas sa place.
Non, mais exactement, il a pas sa place. C'est pas juste ça, c'est qu'il peut pas développer tous les personnages, puis dans un truc super noir d'avoir un enfant, mais il est quand même là. Ouais. C'est ça qui est important, c'est juste qu'ils font un clin d'œil constamment. T'sais, ils sont allés chercher tous les personnages qui sont là. Il n'y a pas Athéna, par exemple.
Non, mais.
Ben, Athéna, ben.
Qui était insignifiante, si j'ai bien compris.
Si, ben, je ne veux pas en parler maintenant, mais parce que
c'est Olivier là.
Mais... Non,
Athéna, c'était la femme. Dans la série originale, je pense que c'était
c'était la sœur
d'Apollo.
La sœur d'Apollo. Il y avait une
fille. Oui, la fille d'Adama.
Qui n'avait pas un rôle gigantesque, mais une jolie
brune. Elle n'est pas morte, je pense.
Peut-être.
Non, c'est le frère qui est mort.
Non, mais en tout cas.
Ça fait trop longtemps que tu l'as pas eu. Moi, j'ai lu les trivia, je le sais. Moi, il y a les trivia sur IMDb.
Bon, à chaque fois que j'entends le nom Apollo, là, je pense au boxeur dans Rocky.
Apollo Creed.
Apollo Creed.
Pendant le boxeur, on a une scène de.
Plusieurs scènes de boxe.
Oui.
Scène de boxe là-dedans.
Ah, tu l'as déjà vu dans la 2 ou les scènes de boxe? Oui,
il y en a une. La finale commence avec la scène de boxe d'Adama et lui qui se battent et tout.
C'est super.
Je me trompe pas, c'est la finale. Ça commence avec ça, puis il y a plein de.
C'est
superbe.
C'est
un des beaux moments
de scripté, ça.
Non, mais dans cette série, il y a des moments épiques de télévision.
Oui.
Non, mais tu verras là, un peu plus loin dans les saisons, là, je pense notamment au début de la saison 3. Là. Où il y a une scène de sauvetage. C'est hallucinant.
Visuellement, là, impeccable.
Moi, j'étais devant la télé, je croyais pas ce que j'étais en train de voir.
Mais déjà, dans la saison 1, tout ce qu'ils se permettent de faire, puis tu sens que c'est. Tu sais, ils disaient des choses comme. Les gens des effets spéciaux nous en donnaient plus qu'on leur en demandait. Autrement dit, c'est genre comme. On les payait pour faire ça. Mais on voyait que les gens ils travaillaient plus parce qu'ils aimaient la série.
C'est rare que ça résonne dans le milieu.
Non, mais c'est parce que là, tout le monde s'est investi, les comédiens et tout. Il y a la scène justement avec le personnage que t'aimes pas du souper et tout. C'est tout improvisé par les comédiens qui improvisent tous ces détails-là, etc.
Ça rajoute du naturel. C'est pas que je l'aime pas, ce personnage-là, c'est que j'aime la haïr.
Je pense que c'est ça le but.
Au début, c'était Baltar, mais je pense qu'elle a bien pris sa place après.
Non, mais parce qu'il n'y en avait pas assez. Ils se sont dit, il en faut une autre détestable. Les Silas sont presque attachants parce qu'ils sont juste ils sont juste clueless de leur manque d'émotion et tout. Tu sais, c'est comme...
Oui, mais ils évoluent aussi à mesure de la série. Là, ça devient de plus en plus complexe. Les Silas, c'est ça qui est intéressant.
Ça, c'est une constante.
C'est qui votre salon préféré? Là, on a parlé des passages.
Moi, j'en connais juste 4 à date. Là,
c'est pas fin pour Olivier, là.
Il faut aller plus loin. Il y en a des costauds qui arrivent plus loin là.
Mais donc comme je l'ai dit, il y a une constante dans la science-fiction, c'est peu importe un extraterrestre, un robot ou whatever, plus de temps qu'ils vont passer avec un humain, plus qui va devenir humain. C'est comme si notre qualité en tant qu'être humain, où on n'est pas super fort, on n'est pas... mais on rub off. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais...
Ouais, ouais, tu,
on déteint.
On déteint un peu, oui.
C'est, ouais, c'est vrai que c'est presque un mythe narcissique qu'on a.
Ouais.
Ben, c'est comme dans Avatar,
mais c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des exceptions, je pense. Je pense que dans Childhood Hands, on peut pas dire que... Je pense que c'est pas ça qui se passe.
Ah.
De Arthur C. Clarke, t'as lu le livre?
Non, faudrait, j'ai lu beaucoup d'Arthur C. Clarke, mais pas celui-là.
Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est un avant qu'il devienne... C'est un peu ésotérique. C'est très spécial pour toi, Arthur C. Clarke, qui fait du hard science. Mais j'essaie de voir. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est très narcissique de penser qu'on va être capable de...
Ouais,
d'adoucir les extraterrestres.
La plupart de mes références au niveau de Star Trek, ça joue aussi dans Farscape un peu. Quoique c'est moins...
J'ai pas écouté encore Farscape. C'est, j'ai commencé, j'ai écouté le pilote, le premier
saison. Ouais, moi aussi, il est sur Netflix.
Mais ça, faut juste regarder au niveau de Star Trek, je veux dire... T'as Spock puis Spock et McCoy.
Ouais. Pis, la dichotomie entre Spock et McCoy. Mais Spock est à moitié humain aussi, faut pas oublier.
Je regarde dans Deep Space Nine, t'as toute la raid. En fait, c'était plus intéressant parce que là, c'est Ronald D. Moore qui était en charge. Puis t'as des extraterrestres t'as des aliens qui résistent à cette déteinture-là.
À cette influence-là.
Exactement. Influence, mais bon, je crois qu'on diverge un peu, mais...
Non, pas du tout. Je trouve que c'est un thème intéressant de la science-fiction auquel j'avais pas pensé, qui était à tenir en compte. Hein. Parce que ça, comme dans District 9, c'est un truc intéressant. Dans District 9, ce qui était bien, c'est que les êtres humains, ils sont montrés comme des stupides, tu sais.
Ouais.
D'habitude, genre, tu regardes Avatar, c'est toujours l'être humain qui est comme un bon, qui sauve tout etc. Le monde. Et tout.
Mais Avatar, pas sûr.
Avatar, c'est l'être humain qui passe pour un gros cave.
Là. Oui, non, attends, c'est pas ça. Mais c'est lui qui s'en va quand même sauver.
Mais ultimement, c'est lui qui sauve les
autres. Il va sauver les pauvres aliens, tu sais.
Ouais.
C'est comme, Dance with Wolves, c'est que c'est le blanc qui comprend, qui va sauver, là, tu sais. Ou Lincoln.
Ouais.
Ou est-ce que c'est les blancs qui sauvent les noirs, tu sais. C'est toujours cette espèce de mythe-là du cinéma bien pensant, tu sais, culpabilisant.
Ben, Django, c'est le blanc qui ouvre la quête à Django à devenir un super-héros. Fait pas grand chose, Django, à part passer à l'action. C'est l'autre qui met toutes ces idées-là dans la tête.
J'ai pas vu encore, Django. Je sais que t'as aimé ça parce que j'ai vu passer ton statut Facebook comme t'étais mort de jalousie.
Tu voulais plus faire de films.
Mais j'ai réalisé quelque chose récemment, c'est que Quentin Tarantino fait un film dans un ordre chronologique. Genre, est-ce que ça skip pas, genre de.
Ouais, pas déconstruit dans.
Ouais, c'est ça.
Et déconstruit
dans
quoi?
Tu sais, ça va du point A, point B au point C. Non, pas point C, D, A, B, Z.
On a commencé par faire du cinéma construit, le déconstruit, puis le maîtriser, puis il revient à le reconstruire. Il fait une spirale.
À quand un film de science-fiction de Tarantino?
Si on revient un peu sur le sujet, il y a quelques flashbacks.
Il a géré, hein? Tarantino, il n'a pas fait de film de science-fiction.
Pas encore, ça va peut-être venir.
Non, il a fait un Grindhouse qui a un petit peu foiré d'ailleurs.
Oh, c'était pas de la science-fiction.
C'était lequel?
Non, c'est plus l'autre qui a fait un film.
C'était celui avec les zombies.
Deadproof. Ouais, Planet Terror.
Ah, Deadproof.
Hey, on conclut-tu sur Battlestar Galactica? Parce que là, depuis tantôt, on est parti.
Ouais. Allez, un dernier petit extrait.
Je pense que l'ambroisie nous tombe dessus.
Ouais, ça doit être ça.
C'est pas mal, hein?
Ouais! J'en bois la main avec Starbucks.
Allez, un dernier petit extrait et puis on termine.
All right, currency. While bartering will continue for the foreseeable future, we do have a system in place now to take the economy back to a currency-based standard. Do you love her?
Did you?
Dr. Baltar, if something should happen to me, it is vital that you comprehend and are familiar with the political structures that are just beginning to fall into place here. Do you understand this?
Answer me.
Yes, of course I understand. My answer is no. No, I don't think that I can handle this right now. The intricacies of the bureaucracy, I can't get my head around this, which, with all due respect, Madam President, you have spent your entire political career learning to understand. More to the point, how you could think that my head could be turned so quickly by a new thing, it astounds me. How did you seriously think that I was going to be able to cope with this kind of responsibility?
I don't believe you.
You're a genius, are you not?
Well, quite frankly, I don't give a flying frack whether you believe me or not. all right, because I've had it. I am tired of being pushed and prodded around like I'm some kind of toy. I'm not your plaything.
Plaything?
I don't work for you, and quite frankly, I don't have to sit anymore and take this kind of abuse from either of you. You either in here, either in there, wherever it is, I don't need to take it.
I love you guys.
Oh, do me a favor.
I think perhaps you need a break from this.
You're right. We need a break.
Bon. Un petit mot de la fin, quelqu'un pour. C'est clair qu'on la conseille à tout le monde, cette série.
Ben, là, je pense que c'est évident, là, c'est encore un cas de. Oh, on a aimé ça. Il va falloir un jour qu'on le fasse,
Le fait que tout le monde aime
notre truc négatif, que le truc qu'on a tous haï, mais là, vraiment. mais c'était bien
parce
de parler d'une série télé.
Qu'on a le goût de parler parce qu'on trippe, là.
C'est ça.
OK, ben pour la semaine. Pour la
prochaine édition. La semaine prochaine, je revendique. C'est ma fête, donc je veux.
C'est toi qui vas l'annoncer, là. C'est toi qui vas l'annoncer.
Je pourrais être méchante, je pourrais vous en sortir un japonais qui vous ferait souffrir, mais non.
Battle Royale 2, genre.
Pire que ça. Un jour, on va parler d'une science-fiction japonaise. Je vais vous faire souffrir.
Battleship Yamato est très bon.
J'ai entendu parler de ça, ouais. J'ai entendu parler de ce truc-là.
J'ai pas vu du tout.
Pas vu.
Donc.
Non, mais on va en parler de. On sait pas encore ça va être quoi le prochain épisode parce qu'on n'a pas fait notre série d'hiver, mais on va vous annoncer ça. Mais pour conclure sur Battlestar Galactica, moi, c'est vraiment une série que j'ai vraiment beaucoup aimée pour ses choix courageux de justement rester dans le drame humain, assumer le côté aussi que. C'est réaliste. Au niveau de la science-fiction, si tu rentres dans une espèce de détail nitpicking, t'as pas fini, t'arrêtes pas. Mais je veux dire, même si tu prends des science-fiction qui sont vraiment ce qu'on appelle du hard science, là, ça se passe jamais comme tu penses. Là, tu regardes des science-fiction qui étaient vraiment très, très peu, puis faisaient très attention dans les années 80, là, puis ils ont complètement passé à côté du cellulaire, puis la miniaturisation des affaires. Ils sont toujours avec des gros trucs, sans penser qu'on amènerait un ordinateur dans notre poche. Tu vois, avec des espèces d'ordinateurs à bobine. T'sais. Donc, prédire le futur, c'est toujours comme un piège. Puis dans ce choix-là, c'est justement de travailler sur le présent qu'ils ont fait. Justement, au lendemain de septembre, ils ont super bien réussi. On croit au personnage, on rentre dans l'action. Super beau cast. Si vous ne l'avez pas écouté, ben c'est sûr qu'on vous a convaincu de l'écouter. Puis de le réécouter, c'est le fun.
En plus, c'est 4 saisons. C'est pas énorme non plus. Hein. Ouais. C'est 4 saisons. Il y a des petites choses entre deux. Il y a un téléfilm au milieu. Enfin, il y a 2 téléfilms. Il y en a un au milieu de la saison, entre 2 et 3. Ouais. Et puis un à la toute fin.
Puis premier. Là.
Et puis, il y a des petits webisodes.
Il y a des petits webisodes et tout. Fait que ça agrément. En plus, il y a une web-série, Blood and Chrome, qui est...
Ah oui, qui vient de commencer, là, depuis...
En fait, la web-série a terminé. Ils ont fait la finale. Ça va être présenté en extended cut sur Sci-Fi bientôt. Et le DVD, je crois qu'il est sorti.
Oui, il sort au mois de février, un truc comme
ça. Ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est Blood and Chrome, ça c'est la première guerre Silent, donc 40 ans plus tôt, avec Adama jeune.
C'est ça. C'est un post-prequel. Parce que
t'as eu Caprica.
Oui, parce qu'il y a eu Caprica entre deux, qui est vraiment... Alors ça remonte à loin en arrière, c'est vraiment le début des Silent, la création des Silent.
Qui était parti pour être une autre série, mais ils ont fait, ben, on pourrait mettre ça dans l'univers de Battlestar Galactica, puis ben, ça donnait ce que ça donnait.
Saison. Toi, t'avais bien aimé ça.
Oui, mais c'est développé plus tard. C'est une de ces séries-là, comme je disais, à propos des Space Nine. Moi, personnellement, excuse-moi, mais c'est plus tard. C'est vraiment à la fin où ce que tout le monde a décroché que ça devient intéressant.
Ça devient vraiment intéressant, c'est vrai. Ils amènent un truc super, vraiment super, super intéressant. Ça prend du temps à. Ça prend du temps à démarrer, mais ouais, il y a quelque chose que j'ai aimé, je l'ai vu jusqu'à la fin. Enfin, j'ai la saison et c'est bien.
Au moment de la fin, il y a Battlestar Galactica, malgré ses quelques imperfections d'une série absolument géniale. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté qu'est-ce que n'importe quelle série télé film. Pardon, c'est l'émotion. Ils ont respecté dans l'ordre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Numéro 1, qualité des textes. Numéro 2, casting impeccable. Et numéro 3, réalisation. Et j'ai bien dit dans l'ordre. Alors, c'est pour ça que c'est bon.
Ben, c'est parce que c'est ce qui a allumé le cast, la qualité des textes. Et puis après ça, quand tu as un cast de même, des textes comme ça, un réalisateur est heureux. Hein?
Voilà. T'as des bons textes, un bon casting, t'as pas besoin de faire de flafain, de mise en scène. Tant que c'est bien, c'est normalement fait puis que c'est correct, ça va passer bien parce que t'as toute la richesse du contenu. Si t'en rajoutes une couche, tant mieux. Mais là, tu sais, comme pas mal tout est là. Mais je pense que c'est mieux d'avoir un bon texte et des bons comédiens que d'avoir un réalisateur de mort parce que même le meilleur des réalisateurs de la Terre va avoir la misère à récupérer un scénario de merde ou à bien diriger des comédiens de merde. Excusez-moi l'expression.
Oui, non, c'est vrai.
Donc voilà.
Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas mal, probablement, la dernière grande série science-fiction qui est passée à la télé.
c'est vrai, depuis
ça, je veux dire, Stargate, je m'excuse, Sébastien Minot, si tu m'écoutes. Mais, je veux dire, après ça, je veux dire, il y a plus de vrai, de ce que moi je considère comme la vraie sci-fi.
C'est quelque chose qui va chercher des fans de sci-fi. Là,
parce qu'à ce temps, c'est
que tu as envie de faire des conventions avec. Là.
C'est ça, c'est vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est aussi comme vous disiez, le drame humain. Je pense que c'est une bonne série pour initier les gens à la science-fiction en tant que tel.
Ouais, c'est vrai.
Parce que tu vois, justement, comme on disait tantôt, on les prend par des points de repère, puis on les amène. Ailleurs, on les amène à penser différemment, puis ensuite, c'est plus facile.
Puis on les perd pas avec des espèces de discours qui expliquent comme les interspatiales, le sautage de la physique quantique.
Comme Zarkon, voyez dans Star Trek.
Ouais, Star Trek, ils aimeraient faire ça. Mais ça fait partie du charme de Star Trek aussi. Ouais. En même temps, ça fait partie du charme de Star Trek, mais là-dedans, ils ont pris le parti pris de ne pas rentrer là-dedans.
Et voilà.
Ben moi, je le dis, moi, si c'est pas ma série télé préférée de tous les temps.
C'est vrai? Jusque-là?
C'est une de mes préférées.
Ouais. T'as pas écouté Breaking Bad encore?
J'ai pas encore écouté Breaking Bad.
Oh, attends, tu vas peut-être changer ton top 5.
Ouais. Si je peux suggérer à nos auditeurs, justement, dans le similaire, Deep Space Nine et Babylon 5 sont deux séries qu'il faut regarder.
Okay. À l'époque, j'avais écouté un peu Deep Space Nine, puis pour être. Je suis pas un fan du tout Star Trek, puis j'avais accroché quand même un peu.
Babylon 5, ouais, on a dit beaucoup de bien. J'avoue que ça fait partie de ma liste de culture de sci-fi à voir. Là, je vais récupérer ça.
C'est ça.
Bon, ben, ce qui fait qu'on arrive arrive au bout, malheureusement.
C'est un long épisode, hein?
Ouais, on a fait un peu long, mais... Bah,
puis le pire, c'est qu'on n'a même pas parlé de chaque épisode en particulier. On a juste comme survolé. Pas
mais quand même, 33, là, ça, je pense que c'est 33, qui est le tout premier épisode de la série, donc après le pilote, je pense que ça reste un de mes préférés de toute la série.
Mais on va revenir, on va y revenir à Battlestar Galactica quand Olivier va avoir fini, parce que je vais absolument parler de la fin.
Moi, 2 semaines, c'est fait.
Moi, je suis absolument parlé de la finale.
C'est bon.
Parce que la finale qui m'a déçu beaucoup, puis que je suis arrivée tantôt en disant... Mais attends! Si c'est ça, la finale, ça aurait été bon. Je sais pas si
Bah oui, mais on va
reparler de la finale.
C'est bon.
J'ai rien dit, sa finale. Je
non,
dis,
mais
ça m'a
dit. Si tu
n'as
pas aimé ça, déjà, ça va me biaiser dans mon écoute.
Ah non, ça va t'aider parce que tes attentes vont être recalibrées. Moi, mes attentes étaient hautes même. Toi, tu vas dire. Là, tu vas la voir, tu vas peut-être pas la trouver. Tu sais, tu vas faire comme genre.
Oui, super.
Bon, okay, c'est pas mauvais comme Lost.
Je tourne à rien à part.
On s'entend. C'est pas la finale de Lost.
Non, s'il vous plaît.
Oh, snap.
Non, mais il y a finale qui te déçoit, puis il y a finale qui, comme genre, t'insulte. Tu comprends
ce que je veux dire? C'est un sujet qu'on risque de parler encore pendant 2 heures de temps.
Non, pas ça d'en parler, c'est clair, t'es d'accord avec moi.
Bon.
J'ai pas dire que t'as aimé la finale de Lost.
Marie-Louise, ça suffit. Ça suffit, Marie-Louise.
Non.
On s'en va où? On s'en rejoint où sur Internet?
Alors, oui, on s'en rejoint où sur Internet? Jean-Philippe, où est-ce qu'on peut te trouver?
At JP Cardin sur Twitter, Facebook, chercher la grosse face de Klingon. Et sinon, geekfestmtl.com.
Et vous autres, Marie-Louise?
Moi, c'est sur Twitter, at Marie-Lou Guerrier-Pi. Okay. Ou à Vidéocalia aussi que je suis. Puis sinon, écrivez sur le. Vous pouvez écrire à mon adresse courriel qui est sur le site de 24 Quarks.
Ça marche. Olivier?
Nulle part, j'ai délité mon compte Facebook.
Non, sérieux?
Non, il existe toujours, fait que je suis là tout le temps.
D'accord. Donc sur Facebook. Et puis moi, c'est sur Twitter, Steadynik, S-T-E-A-D-I-N-I-K. C'est mon point de chute, comme toujours. Je suis un peu
puis
partout.
Si vous écrivez à 24 Quarks.
Et oui, alors.
Si vous avez 24 Quarks sur Twitter, ben, c'est soit moi puis Nick qui répondent.
Voilà, c'est ça, 24, at 24 Quarks. Donc 2-4 Quarks.
On pourrait t'ouvrir le compte, Olivier.
Toi, tu veux rien savoir.
Voilà.
Il fait
de la résistance.
Oh.
Non, c'est surtout que tu te préviens des adductions.
Et puis bien sûr, tout le reste, c'est sur 24quarks.com ou sur iTunes. Et puis ben, la page Facebook, et puis voilà, on n'a pas encore fait Google Plus, mais ça ne serait tardé.
Et on se revoit dans deux semaines,
mais on ne sait pas encore. Ou est-ce que tu as une idée? Tu as une idée?
On va en parler.
Il faut qu'on en parle.
Faut qu'on soit d'accord.
Bon, bah, surprise alors. On annoncera ça sur Twitter et sur Facebook. Bon, et ben merci à tout le monde, c'était super. Merci à Jean-Philippe, c'était un plaisir.
Parle au public.
Et puis. Et ben voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, de votre fidélité, et puis à très bientôt. Bye bye.
Bye. Program complete. Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.